Bonsoir à tous et bienvenue sur Paris Central. Aujourd'hui, je suis avec l'équipe type Tonton, Drias, Ricoba. Comment allez-vous, les gars?
Ça va, ouais,
impeccable. Et petite pensée pour Nick Sébasto quand même.
Ouais, bah, mais bon, j'ai dit l'équipe type. Excuse-moi, mais dans toute équipe de football, il y a les remplaçants.
Ah oui, il y a les remplaçants. Il y a les Abdoul Aïdel et compagnie.
Je rigole. Tu sais, le mec qui est passé un mois sans venir, et il dit les remplaçants, genre. À la Neymar.
Confiance.
Bon. Alors, là, vous voyez qu'on est content, mais on n'est pas trop content, hein, parce que ce qui se passe du côté du Paris Saint-Germain, c'est assez lamentable. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de lancer ce live. Ça va être un live un peu… Bon, alors, on va un peu parler de bilan, etc. Mais de toute façon, on en fera un autre où vraiment, on aura le temps d'aborder le bilan. Mais j'avais certaines questions à vous poser sur lesquelles je voulais avoir votre avis. Donc, alors, du coup… Le titre du live aujourd'hui, c'est « Une saison blanche méritée pour le PSG ». Donc, on va tenter de répondre à cette question couperée. Avec la première question, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette saison blanche, elle est méritée? Enfin, si, bien sûr, il y a saison blanche. Hein, mais à l'instant T, voilà, tu as 6 points de Marseille. Vous en pensez quoi, vous?
Vas-y, hors des caméras, tonton, je t'en prie.
Si on part sur le principe que PSG finit la saison sur une saison blanche en perdant le titre face à Lens ou Marseille, t'as pas le droit de dire que c'est pas mérité. Je veux dire, t'es sur 8 défaites déjà en 2023, t'es sur le plus haut total de défaites depuis 2001, c'était il y a 22 ans, j'avais 8 ans, on est sur une saison complètement honteuse. Je sais même pas si on a fait une prestation de haut niveau et qu'on peut considérer comme un classique sous Galtier, hormis contre des équipes très faibles.
Le classique. Même pas.
Et encore, voilà, je veux dire, contre le top 5, on a des résultats qui sont moisis cette saison. C'est les pires résultats qu'on a eus. En Ligue des Champions, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ni contre Benfica, ni contre le Bayern Munich. C'est d'ailleurs la seule fois sous QSI qu'on est éliminé en Ligue des Champions sans marquer de but aller-retour. La dernière fois que ça arrivait, c'était en 95. Ça pose à quel point c'est grave. En fait, Galtier, il bat des records de médiocrité. Et tu vois, genre, c'est la première fois que le PSG est éliminé sur une phase aller-retour par un club allemand en Coupe d'Europe. Toute compétition confondue, tout club allemand confondu. Fallait une première atout, et Galtier, en fait, il fait tous ces trucs-là. Une première atout. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas perdu contre Marseille au Vélodrome en Coupe de France? Pareil, il faut une première atout.
Voilà. Non, c'est jamais arrivé, il n'y a pas de… Galtier, y a pas de… Ça fait combien de temps? C'était jamais arrivé.
Galtier, il enchaîne les records de médiocrité. Donc à un moment, si le PSG finit sur une saison blanche, t'as pas le droit de dire que on n'a pas de chance. T'as pas le droit de dire que c'est la faute des absents et des jeunes. Ce sera totalement mérité.
Pour corroborer ce que tu dis, de toute façon, cette stat est importante à être donnée, il faut savoir que derrière Camboire, et je parle bien de sous QSI, Galtier a le plus haut total de défaites avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire en un an. Tous les autres coachs dont on parle de plusieurs années, soit 2 ans, soit 1 an et demi, voire je crois, tout le monde a fait 2 ans, je crois que c'est 2 ans le maximum. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez.
Ouais, 19%, je crois.
19%, ouais. Non, alors, il est à, je crois que 19%. Non, alors, Camboré, t'as 20% et lui, t'es aux alentours de 19%.
Ouais, c'est ça. Camboré est à 21 et lui à 19%.
On parle de 8 défaites uniquement sur l'année 2023. C'est quand même fou.
Ouais, uniquement sur l'année civile. Ouais, il y a 8 défaites. Enfin, bref, voilà. Comme l'a dit Tonton, je ne vais pas revenir sur Galtier parce qu'effectivement, voilà, il bat des records de médiocrité, il bat des records de défaites. On a failli avoir 4 défaites d'affilée à un moment donné. Ce n'était pas arrivé depuis début 2000 aussi. Donc voilà, sur Galtier, les défaites et compagnie, je pense que Tonton en a bien parlé. On paye aussi du coup pour compléter tout ce qui a été fait depuis plusieurs années, parce que c'est pas paf cette année, avant ça se passait bien, et cette année comme par magie, un désastre entre guillemets, où on nous a jeté un sort. Non, c'est bien tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années qui ont fait qu'aujourd'hui on en est là. Et clairement, aujourd'hui, la saison blanche, s'il y en a une, serait mérité pour l'ensemble de leur œuvre. En gros, ils paieraient la note de tout ce qui se passe depuis des années. Et pour cette saison, on peut mettre Campos dans l'équation parce que le mercato d'été, il est horrible. Il n'y a pas un seul joueur qui a donné satisfaction, à part Mukiele. Le mercato d'hiver, lui qui s'est plaint juste après le mercato d'été de ne pas avoir pu faire ce qu'il voulait, mercato d'hiver, il ne s'ajuste pas, aucune recrue. On pense faire Ziyech et dernière minute, il y a un problème de dossier, on ne recrute pas Ziyech alors que tout le monde l'avait officialisé. Donc encore une fois, la honte. Donc tu te dis, qui c'est qui travaille dans ce club? Le seul qui travaillait dans ce club, c'était Jean-Claude Blanc. Tu l'as perdu cette saison, si je ne me trompe pas, c'était cette saison. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps avec tout ce qui se passe qu'on dirait que c'était l'année dernière. Mais si je ne me trompe pas, c'était récent. En plus de ça, il va renforcer Nice et Ineos. Donc voilà, c'est mérité pour le Qatar. Et le seul match abouti que tu as eu cette année, et encore abouti, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, c'est contre Marseille. Donc évidemment que ce serait amplement mérité.
Vous avez dit l'essentiel, pour revenir sur Marseille, match abouti, il ne faut pas aller trop loin, c'est juste un match où on avait des satisfactions et on avait une promesse, ah tiens, enfin on pourrait voir quelque chose si ça commençait à évoluer dans ce sens-là. Mais on a été un tout début de mieux, et ce tout début de mieux s'est cassé la gueule juste deux matchs après, et il n'y a rien à redire. C'est le mot que tu as employé, moi tu vois, le mérite, je ne sais pas, les mérites pour moi c'est une notion à cap threat, mais c'est la saison de la honte, il y a une dimension que vous n'avez pas soulevée, c'est l'effectif du Paris Saint-Germain, le budget du club. Se comporter comme ça, être à ce point peu capable de se procurer des occasions. Enfin, je veux dire qu'on s'amuse, si on s'amuse, j'ai pas regardé la stat, mais si tu t'amusais à comparer le nombre de tirs au but que tu as sur toute la saison, à ce stade de la saison avec les autres années, je pense qu'on est infiniment en dessous. On se procurait un nombre de situations particulièrement faible, et le tout avec un budget comparé au deuxième. Enfin, je sais pas, le budget de Paris, c'est bien, ça doit être le budget du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième combiné, peut-être même plus. Et c'est une saison de la honte. Ce qu'on a proposé footballistiquement, c'est ni vu ni à voir. Il n'y avait rien. À aucun moment, on a eu une animation avec ballon. On n'a jamais vu d'animation sans ballon qui tenait la route. On a vu une défense qui fonctionnait sans dessus. Enfin, t'arrivais pas à faire sens. Petit détour par Galtier, l'utilisation des personnes. On peut se nommer El Shaddai, dont on va parler tout à l'heure, qui a été utilisé n'importe comment et qui a été limite jeté en pâture aux médias après l'avoir mis sous pression dans des matchs pas possibles, après l'avoir fait jouer 3 minutes avant. Vitinha, la première fois où tu commences à jouer avec un milieu à deux, qui est le poste qu'il connaît, alors que tu l'as enchaîné à faire jouer en 10, tu le mets sur le banc. T'as insisté pendant 10 ans avec Marquinhos au centre alors que ça n'a pas marché une seule fois, paf, ça marche avec Ramos, il te faut 8 mois pour t'en rendre compte alors que tu avais les mecs à l'entraînement toute l'année. Enfin, c'est ridicule. Il y a un moment où c'est les mots qui viennent, paf, moi le mérite, je sais pas, mais c'est une saison ridicule. La honte, c'est une honte. Je veux dire, si d'autres clubs se foutent de notre gueule, on leur a donné raison. On correspond en plein à la définition QSG et tous ces diatribes qu'on a pu entendre. Et ceux qui nous le jettent au visage, autant les autres années, tu pouvais répondre par des trucs. Là, tu n'as rien à dire. Tu es juste les comparaisons avec les Harlem Globetrotters, le circuit Paris Saint-Germain, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ça tient en plein. C'est des mecs qui sont surpayés, qui n'en branlent pas une, organisés par un géo qui n'est pas performant, qui est complètement incompétent. Et alors après, toi, t'as étendu avec Campos et tout. Mais le résumé de la saison, elle tient à ces quelques constats pathétiques.
Je pense que vous avez un peu tout résumé. Moi, je vais la faire court.
Clairement, non, vas-y, lâche-toi.
Franchement, j'ai pas envie de me lâcher parce que si je me lâche, je te jure, la chaîne, elle va sauter. Franchement, hier, tu sais, j'en ai parlé avec tonton, j'étais à deux doigts de faire un live tout seul juste pour tirer. Mais quand je te dis tirer, c'est... Non, mais je te parle sérieux. C'est-à-dire que là, ouais, c'était tiré, mais c'était pas tiré... C'était pas tiré pour tirer, c'était vraiment tiré des vrais bastos. Là, ça va, j'étais un peu plus calme, tu vois. Comment qualifier cette saison? Bon, en fait, le truc, c'est que à des moments, ils ont réussi à me faire fermer les yeux. Et pourtant, je sais qu'il y avait des trucs où, normalement, au vu de ma conception du football, normalement, j'aurais dû tirer la sonnette d'alarme depuis longtemps. Mais il y avait des mêmes reconsolations. C'est vrai que la première partie de saison, elle est, au terme de jeu, c'est bidon, tu vois. Mais tu avais quand même à des moments... Des moments de fulgurance qui pouvaient te faire penser que bon, ils sont pas encore prêts, c'est normal, le coach est en train de mettre des choses en place, ça arrive. Mais les gars, le crash que tu as depuis le mois d'octobre, en fait c'est simple, depuis le mois d'octobre, même je dirais même depuis la fin septembre. Depuis la fin septembre, tu ne fais que descendre, que descendre, que descendre, et là tu es tellement descendu que tu as réussi à creuser le trottoir. Tu vois? C'est-à-dire que là, tu es passé début de Chaumont à Paris-Centre, mais tu es encore en train de creuser là. Si tu continues à creuser, tu vas aller en Chine. Tu es en train de creuser, c'est un truc de fou. Tu fais que creuser. Et pour moi, le comme j'ai dit, le match du Bayern, moi, je leur retiens pas rigueur sur le match retour, pas le match aller. Parce que le match retour, moi, j'estime qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient. Tu peux pas en tirer plus de cet effectif-là. C'était bidon. Tu vois? Il y avait les blessures, etc. Ok, très bien. Mais les gars, ce qui s'est passé depuis le retour de la Coupe du Monde, moi, je suis désolé. Dreyas, il parle de salaire, etc. J'ai même pas envie d'aller jusque-là. Moi, je veux parler juste de l'envie des joueurs. Je ne veux même pas aller jusque-là. Les salaires, moi, ça ne me concerne pas. C'est entre lui et les clubs. Je veux juste parler de l'envie. L'envie qu'ils sont en train de montrer, les gars, je suis en train de vous dire clairement, c'est un putain de manque de respect pour le Paris Saint-Germain. Désolé du terme. Désolé pour ceux qui nous écoutent. Pour moi, c'est un putain de manque de respect pour les supporters. En fait, là, clairement, on est arrivé à un niveau où c'est même plus, on nous a lâchés. C'est que là, clairement, on est de la merde et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je suis désolé, la prestation qu'ils font contre Lyon, tu montres ne serait-ce que un minimum d'envie, une pincée de sel d'envie, juste une pincée de sel. Tu mets un but, tu bloques derrière, tu as gagné ton match. Je suis désolé, tu affrontes le pire Lyon des 20 dernières années, peut-être. Des 20 dernières années, le pire Lyon des 20 dernières années. Bon, t'es le pire PSG des 10 dernières années aussi. Mais bon. Quand même, je suis désolé, on est peut-être le pire PSG, mais on reste quand même une des top équipes de Ligue 1. Tu sais, on dit souvent que la Ligue 1 s'est renforcée. Mais mes fesses, la Ligue 1 s'est renforcée. C'est le Paris Saint-Germain qui s'est écroulé. La Ligue 1 s'est rien renforcée du tout. La Ligue 1, elle est toujours aussi claquée en Coupe d'Europe. Ne me dites pas que la Ligue 1 s'est renforcée. La Ligue 1 s'est pas renforcée. La Ligue 1 a toujours son niveau. Alors oui, il y a des équipes qui ont. Le jeu s'est renforcé. Et là, je suis d'accord. Le jeu de la Ligue 1 s'est renforcé. On voit beaucoup plus de jeux en Ligue 1. Voilà, du très beau jeu. Bon, il y a toujours les prémices de force physique en Ligue 1. Mais globalement, en termes de jeu, oui, ça s'est renforcé. Mais en termes de niveau, la Ligue 1 ne s'est pas renforcée. C'est le Paris Saint-Germain qui est éclaté. Il y a deux saisons, tu perds contre Lille. Mais le Lille qui te bat en championnat. Mais je te jure que le Lille qui te bat ne passe pas les poules en Ligue des Champions. Mais je te t'assure. On parlait des autres années. Mais là, en fait, toute cette année, pour moi, c'est l'accumulation de ce qui s'est passé les dernières années, mais surtout l'accumulation de la compétence. Tout est incompétence, tout est à jeter. Donc, est-ce que c'est mérité si tu fais la saison boss? Pour moi, le mérite, c'est une histoire de simple. C'est tu gagnes les matchs. Hein. Donc, si tu gagnes le championnat, même si tu as pratiqué du mauvais jeu, tu l'as mérité. Tu as gagné les matchs. Tu as gagné les matchs qu'il fallait. Donc, non, le mérite, non. Maintenant, est-ce que si tu perds le championnat, est-ce que c'est immérité? Et là, pour moi, c'est la question, elle devrait être posée plutôt comme ça. Est-ce que ça serait une catastrophe si tu perds des championnats? Bon, au vu de la saison, ça serait une catastrophe parce que tu représentes le Paris Saint-Germain. Mais au vu de la saison, pour moi, non, c'est pas une catastrophe. Parce que ce qui se passe, c'est pour moi, faut que tu parles d'attitude des supporters. Bah, franchement, je vais faire un petit aparté là-dessus, après j'arrêterai. L'attitude des supporters, les gars, moi, comme je l'ai dit, hein, le cup, ils font ce qu'ils ont envie de faire en vrai.
C'était les 15 ans de la cassos, même, j'ai envie de dire.
Les 15 ans de la cassos, et puis moi, je ne vais pas prendre la défense du cup ou quoi que ce soit, mais moi, j'estime que si vous n'êtes pas content, les gars, en vrai, bon, je sais que le stade, quand même, c'est compliqué parce que les places sont hyper chères, mais il y a plein de moyens de montrer son mécontentement autre que sur les réseaux sociaux. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des banderoles qui étaient sorties dans les rues, etc. Donc, il y a plein de choses à faire pour montrer son mécontentement.
Mais si on ne sait pas, on pense.
Si on ne fait pas, on ne peut pas se plaindre que d'autres ne le fassent pas. Ce n'est pas des Pokémon le cup. Mais ça, c'est un petit aparté. Moi, je veux vraiment envie de rester sur le jeu. Pour moi, là, ce qui se passe, et après, on changera de sujet. Clairement, pour moi, c'est du foutage de gueule. Et le coach n'a plus rien à faire ici. Vraiment, il n'y a aucune satisfaction dans cette saison. Il n'y a rien. Il y a quoi? Il y a le 7-1 contre le LOSC. 7-1 contre le LOSC où tu te manges des contre-attaques à l'appel. Le LOSC peut t'en mettre 10 s'ils veulent. Il peut t'en mettre 10. Ils peuvent t'en mettre 10. Mais bon. Bon, tu arrives à avoir un bon Donnarumma, une défense globale, etc., qui arrive à maintenir un peu
le bataillon. Tu te fais bouffer pendant 30 minutes contre le LOSC, tu mets deux buts qui ne sont pas forcément contre le jeu, mais contre le cours du jeu, mais bon, tu mets deux buts sur des contre-attaques, et après, derrière, tu les fais douter, et après, ça explose un petit peu, mais tu te fais bouffer la première partie du match.
Mais de toute façon, et ça, je vous invite à revoir les lives de cet été. Alors, il y a eu de l'optimisme. Moi, personnellement, j'étais le premier optimiste. Bah, c'est normal, c'est mon club, donc je vais être optimiste quoi qu'il arrive. Mais globalement, on avait très vite ciblé les manques de cette équipe-là. On avait très bien dit que sans numéro 9, ça allait être compliqué de tenir la route. Et puis même, il fallait encore un ou deux milieux de plus. Tu vois? Et ça, on l'avait tout.
Après,
ça, on l'avait tout
Paris, il y a une bonne question dans le chat.
Il y a juste un truc auquel je voulais réagir. C'est alors après, peut-être vas-y la question, je ne sais pas. Mais c'est tu mets beaucoup sur la tête des joueurs et d'une manière générale. C'est moi là-dessus, après on a eu une prise de tête et je n'ai pas la même lecture. Pour moi, à partir du moment où tu n'as pas une hiérarchie claire et tu n'as pas un encadrement ou avec un minimum de cohérence, je pense qu'individuellement, tu peux mettre les mecs les plus charismatiques si tu t'en sors pas. Mais au-delà de ça, enfin oui, il te manque un attaquant, oui, il te manque ci, oui, il te manque ça. Mais les autres années aussi, on avait fondamentalement toujours des manques. Il y avait toujours quelques incohérences dans l'équipe. Faut se souvenir, hein, depuis Mota, on est toujours en chien de joueurs, il y a toujours quelque chose qui manque à l'équilibre d'équipe, et plutôt que d'upgrader l'équipe, on n'a fait que upgrader devant, mais on n'a pas upgradé le reste. Et pourtant, cette année, on est tombé, ont zéro niveau coaching. Donc il y a un moment où, si tu veux, tu peux, on peut en permanence taxer les joueurs de ci, de ça. Mais si, tu vois, enfin, tu as plusieurs manières de lire les coachs n'écoutent plus les joueurs n'écoutent plus le coach. Il y a un moment où si tu veux, ils comprennent même pas ce qu'ils lui demandent. C'est fait, au niveau tactique, les mecs, ils ont des habitudes de discours et tout. Tu te retrouves avec un mec qui tactiquement te dit, il y a un moment où toi, tu prends plus au sérieux. Et si tu n'as plus de coach, si tu n'as plus rien pour te diriger, si les mecs l'écoutent plus, ben, ils sont sur le terrain, ils n'ont pas le recul nécessaire. Donc, c'est des joueurs, il y a des arguments pour le faire. Mais déjà, avant, on avait un encadrement qui était, mis à part Jean-Claude Blanc, qui n'était pas cohérent. Mais là, en plus, on a mis de l'incohérence sur le banc. C'est la première fois qu'on a de l'incohérence sur toute la ligne. Donc, quand tu es joueur, ce n'est pas si évident d'évoluer dans ce contexte-là, à mon avis.
Mais c'est bien de me lancer dessus, parce que justement, je voulais vous lancer dessus. Parce que moi, il y a un truc qui est complètement lunaire qui s'est passé après le match de l'OL. Il a été très peu mis en avant, que ce soit sur les réseaux ou sur les plateaux télé. Moi, ça m'a fait péter un pont. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais attends, mais c'est pas possible. Là, on te dit frontalement que le coach est lâché par les joueurs. Alors, Christophe Galtier a fait comprendre en conférence de presse qu'il a montré les transitions rapides de l'OL en vidéo, mais que les joueurs ne l'ont pas écouté. Les joueurs ne font pas ce que Galtier demande. Ça correspond à ce que tu as dit, Ekitike, je crois que c'était, je sais plus, c'était contre, après Lyon ou après un dernier match qu'on n'écoutait pas les conseils du coach. Et ça correspond à ce que tu as dit, Danilo.
Moi, Danilo, à la fin du match contre Lyon, il le dit lui-même, ouais.
Parce que moi, j'ai envie de vous entendre là-dessus, parce que ça,
c'est hallucinant. Mais si tu te retrouves avec un coach, tu sais, j'avais ce débat-là avec Basto, parce que moi, en début de saison, je disais, Galtier, j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout dans ce coach. Mais par contre, je pense qu'au niveau de la gestion humaine, il va faire des choses positives. Et j'en veux pour ce débat du pénalty où on a cru qu'on était reparti comme dans les saisons passées avec, je sais plus, entre Cavani et Mbappé, je crois. Je me souviens. Neymar. Voilà. Où on était parti là-dedans. Et ça a été effectivement tué dans l'œuf très très vite, cette crise. Et je me suis dit, effectivement, c'est ça. Mais il y a un moment où, et c'est là où je suis pas d'accord avec Basto, parce que Basto, pour lui, il est nul sur tous les chapitres. Mais moi, je pense que même s'il est cohérent au niveau de la gestion humaine, il est tellement pas au niveau tactique et il doit tellement parler avec des joueurs qui ont, enfin, tu prends n'importe quel joueur, ils ont eu des bons coachs avant, donc ils ont une attente au niveau de l'écoute tactique qui est telle, qu'à un moment, les joueurs sont obligés de le prendre pour un fond-blard. Et le mec peut avoir toutes les qualités en gestion humaine que tu veux. À partir du moment où tu es pris pour un fond-blard et tu n'es pas pris plus au sérieux, bah, les mecs n'arrivent plus à t'écouter, même s'ils essayaient. Même si, tu sais, à un moment, tu peux essayer de bien faire, mais quand le mec est juste incompétent, qu'est-ce que tu peux faire? Et je pense que c'est Campos, hein. Campos qui a voulu, tout à l'heure tu tombais sur Campos, je vais tomber sur Campos pour une autre raison, pas pour la raison Mercato. Il a voulu nommer son coach malléable qui était son coach fusible. Il lui a mis des adjoints dans les pattes, ça il faudrait peut-être qu'on ouvre le dossier des adjoints parce qu'on les a pas vus. Enfin, sinon il y a des choses qui
échappent. Ah oui, il y a le dossier est ouvert, ça
commet voilà, pas mais, mobile. Mais Campos qui a nommé un Galtier, qui a nommé un mec incompétent, où il allait pouvoir en fait le manipuler comme de la pâte à modeler, et on s'est retrouvé dans une merde noire parce que le mec a juste pas le niveau. Et du coup, les joueurs peuvent pas le suivre. C'est juste, ils peuvent pas le suivre, je pense.
Ouais. Campos, en fait, je pense qu'il a travaillé comme s'il travaillait dans un club qu'il a l'habitude, c'est-à-dire Lille, Monaco, le Celta Vigo. Je pense qu'il a mal mesuré le club dans lequel il arrivait. Alors, bon, peut-être qu'il va rectifier ça cet été s'il reste, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, tous les choix qu'il a pu faire, du coach jusqu'au recru, il s'est littéralement trompé sur les profils de joueurs, sur le caractère des joueurs, le mental de ces joueurs-là. Il n'y en a aucun qui s'est imposé, comme j'ai dit, à part Mukiele. En plus de ça, on nous disait qu'il allait avoir un changement au niveau des salaires, des choses comme ça, fini les passes droits, les salaires à la baisse et compagnie. On voit que Mukiele est payé 700 000 par mois. Donc, vous imaginez quand même qu'on a recruté la doublure d'Achraf Hakimi, 10 millions, qu'on paye 700 000 par mois. Donc, comme un cadre, c'est assez incroyable. Hein. Comment ?
Je t'avoue que l'info, l'équipe, selon leur estimation, où ils fixent après, des salaires au hasard... Je vais pas m'appuyer sur cet article perso pour parler
des salaires. Juste un truc, très rapidement, Réco, évite de nommer Mukiele quand Tonton est là, parce que c'est pas une bonne idée.
Je te laisse. Exactement.
Et quand Mario aussi est là,
c'est les seuls qui répondent présent dans tous les cas. On en est satisfait, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné... on parle d'institutions, de décisions, etc. Il y a des choses qui doivent être cohérentes. Et quand tu recrutes une doublure, tu ne peux pas le payer comme un, comme un titulaire, surtout que derrière, c'est des joueurs que tu, qui peuvent flopper chez toi, que derrière, tu vas devoir revendre. Et je rappelle quand même qu'il y a une multitude de joueurs qu'on a prêtés qui vont revenir, que personne ne veut acheter, ou alors qui veulent rester au PSG parce qu'ils ont un salaire mirobolant. Donc du coup, on se retrouve encore plus avec des joueurs qu'on ne peut pas vendre. Donc on va se retrouver avec un loft qui va passer de 5 à 10, 15, puisque quasiment toutes les recrues de cet été, on va devoir les dégager cet été. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le nouveau bouc émissaire qui est sorti, je crois, aujourd'hui ou hier, c'est Hugo Ekitike qu'on veut vendre. Voilà. Alors maintenant, le problème, ça va être Hugo Ekitike. Si on se débarrasse d'Ekitike, ça y est, on va régler tous nos soucis. Donc c'est assez incroyable. Et puis ça reflète aussi, justement, pour revenir à Christophe Galtier, du coup, bah, tous les problèmes de communication qu'il y a pu avoir. Moi, je suis un peu d'accord avec ce qui s'est dit, notamment Drias, par rapport à Galtier. Au moins la communication, au moins ce qu'il allait faire de cette équipe, parce que tactiquement, je savais que c'était limité, mais j'espérais qu'il allait avoir une bonne communication. Et d'ailleurs, par rapport à ses premières conférences de presse, on était plutôt contents. Il n'y avait pas de langue de bois, il y avait des choses assez cohérentes qui se disaient, donc on était satisfaits. Mais au final, ça a été un fiasco. Quand tu regardes ses conférences de presse, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Le traitement des joueurs, c'est infernal. Il s'est retourné de nombreuses fois, il a retourné sa veste, il n'a jamais porté ses couilles, il a donné le leadership un coup à Mbappé, un coup à Messi Ramos. Et du coup, bref, il s'est complètement noyé, donc il a perdu son vestiaire. Au final, il se met à taper sur les jeunes et jamais sur les cadres. Peu importe les boulettes qu'ils font, c'est toujours les jeunes qui prennent. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'il y en ait qui n'aient pas le niveau, et on l'a dit de toute manière, que ce soit El Shaddai, que ce soit Ekitike, mais à un moment donné, les prendre pour des boucs émissaires à chaque fois, alors qu'ils ont 17 piges, c'est très, très lâche.
Tout à fait, la raison.
Moi, du coup, à mon tour, concernant cette gestion, moi, je ne suis pas étonné, et en fait, le problème, c'est que la dernière fois que j'ai eu le souvenir d'un coach lâché par ses joueurs, bah, c'est quand Emery, il impose une tactique lors de la remontada. Il dit qu'il faut marquer le but rapidement pour mettre le Barça dans le doute et plier la rencontre. Et Thiago Silva, il fait quoi? Il dit à tout le monde, reculez, 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 reculez. Et là, le problème, qu'est-ce qui se passe derrière? Bon, on prend une trempe. Et là, bah, Galtier, il est lâché par ses joueurs. Quelle surprise! Quelle surprise! Et en fait, le problème, c'est qu'à un moment, bah, bien sûr que les joueurs vont lâcher quand tu fasses sa communication tout au bout de la saison. Je veux dire, moi, j'entends, c'est pas le premier Galtier à vivre des problèmes que les autres ont déjà vécu. Il y a des trucs, on les voit. Et à un moment, bah, je peux entendre que tu as des questions gênantes, mais les autres, ils arrivent à botter en touche, à être un peu habiles. Tu vois, genre, quand tu leur mettais sous les yeux des fois que tel ou tel joueur avait fauté, ils arrivaient à trouver un prétexte pour le joueur, et comme ça, ils n'incriminaient pas le joueur. Sauf que là, il a l'effet sous les yeux, mais au lieu genre de botter en touche, tu vois, ou de trouver une parade, tu vois, ou de faire une petite feinte pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ment et honte et ment, comme si on n'avait pas d'œil, comme si on ne pouvait pas suivre les matchs. Alors que le mec, à la base, au début de la saison, même quand on faisait des matchs pourris, il avait des bonnes analyses de match, il pouvait t'expliquer ce qu'il y avait eu de mal dans le match, tu vois. Et tu disais, putain, intéressant, le mec fait des bons débriefs, il comprend, il va donc corriger ça au prochain match. Sauf que là, il n'en est même plus là. Il n'en est même plus là, il était complètement lâché. Et il aurait pu botter en touche, il aurait pu mieux gérer certains joueurs. Je ne vais pas faire tous les chapitres parce qu'il y a des trucs qu'on parlera dans les autres sujets, tu vois. Mais moi, je ne suis pas étonné que les joueurs n'ont pas respecté les consignes de Galtier. À un moment, c'est quoi les consignes de Galtier?
Tu peux réagir très rapidement.
Ouais.
Je trouve, la comparaison ne tient pas pour moi avec Emery. Emery, c'est au niveau mental, c'est-à-dire que tu as une équipe qui se met à, avoir la peur.
Je ne compare pas les deux, j'ai juste dit que
justement, je précise parce que non, mais il y a un moment où les joueurs ont plus ou moins lâché Emery, c'est en fin de deuxième saison après la campagne de Ligue des Champions où là, ça commence à ressembler plus à rien. Mais sur ce match-là, ça n'a rien à voir. Galtier,
d'un match, tu vois, mais je te dis pas que Emery a été entièrement lâché par ses joueurs à partir de ce match-là.
Ouais, et puis c'est pas les mêmes causes. C'est-à-dire que Galtier, voilà, il est vraiment lâché parce que les mecs comprennent même pas ce qu'ils lui demandent, sans doute.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas sens, quoi. Non, mais ce que je voulais dire par la Z, c'est quand on a eu Pochettino et Tourelle, on n'a pas eu concrètement le même problème qui a été dit à la fin d'un match, tu vois, où les joueurs ont volontairement pas écouté les consignes du coach et que ça s'est su. C'est ce que je veux dire par là, c'est la dernière fois qu'on a eu ce problème-là, mais c'était lors de ce match-là. Et voilà le match que c'était, ça montre à quel point le club ne va pas bien, en fait.
On est d'accord.
Après pour défendre vite fait, hein, évidemment, Galtier, il y a un problème qui est significatif avec Galtier cette saison et qui l'était avec tous les autres entraîneurs avant, c'est le problème des mains liées. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si t'en veux à Lionel Messi de ne pas courir sur le terrain, voilà, t'aimes pas son comportement, tu trouves qu'il se fout de ta gueule, etc. Tu veux le mettre sur le banc, mais tu peux pas aujourd'hui le mettre sur le banc. Aujourd'hui, le coach du PSG, il peut pas mettre sur le banc Mbappé, il peut pas mettre sur le banc Messi. Il est obligé de faire avec ce que le Qatar demande, il est obligé de faire avec les recrues que le Qatar veut, etc. etc. Et ça, c'est un gros problème aussi.
Ouais, mais c'était le cas avec les coachs avant. Et les coachs
Bien
avant
sûr.
ont réussi à résoudre l'équation et Galtier est incapable de la résoudre, quoi.
Ah bah c'est le pire pour résoudre cette équation. Ça, on est d'accord.
Mais Pochettino, il avait tout ce vestiaire-là déjà. Et en plus, il avait des joueurs comme Herrera. Non, pareil,
les gars, je suis désolé, mais moi, c'est pas viable ça. Cet argument-là, il n'est pas viable.
Non,
pour moi, cet argument-là, je comprends ce que tu veux dire, Ricoba, hein, mais pour moi, il n'est pas viable. Parce que, à la rigueur, Pochettino, tu lui imposes Messi. Tu lui imposes Messi, Pochettino, il est déjà en place. Lorsque Galtier signe son contrat, il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Hein. Il savait très bien qu'il y avait. Il savait très bien.
Oui,
voilà, donc à partir du moment où tu as signé, parce que lui, on va pas me dire qu'un Marseillais, supporter de Marseille, signe à Paris parce que vas-y, non.
Paris, c'est le moment de te lâcher pour les likes.
Ah oui, les gars, s'il vous plaît, on like la vidéo, au moins 50 likes, là, on est 108, donc 60 likes. 60 likes, c'est bien.
Sinon, Galtier sera remplacé par Graham Potter, récemment libre de Chelsea.
Non, plus sérieusement, pour moi, cet argument, il n'est pas viable. Pour la simple et bonne raison que lorsque tu savais très bien où tu mettais les pieds. Donc, à partir du moment où tu viens à Paris, pour toi, c'était un tremplin, t'assumes. Tu vois, même si... moi, je veux bien, c'est vrai que, ouais, mais si tu ne peux pas y dire de courir, etc., c'est très bien. Mais lorsque tu as signé au Paris Saint-Germain, tu savais qu'il était là. Quand tu as voulu prendre ce Paris Saint-Germain, tu savais qu'il était là. Quand tu fais le fanatique de Messi. Parce que moi je te dis pourquoi il fait le fanatique de Messi. Il ne le faisait pas au début de saison. Il ne le faisait pas. Il a commencé à le faire à quel moment? Il a commencé à le faire après le pivot gang. Pourquoi après le pivot gang? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est lui qui a été débile. Pour moi, déjà, de 1 à la base des bases, lorsque tu as donné à Mbappé, tu ne peux pas te permettre de dire hey, je vais donner aux autres. Tu vois? C'est soit tu donnes aux autres, soit tu donnes à l'un. Tu ne peux pas donner aux trois, c'est pas possible. Trois stars immenses, il y en aura forcément qui seront lésés. Tu vois? Et donc malheureusement, lorsque lui il arrive, ben voilà, tu avais tout donné à Mbappé, etc. Fallait se plier à cette volonté-là, tu vois? Il est débile. Toi, tu le fais pas et après coup, tu essaies de... Non, c'est mort. À partir du moment où tu as fait ça, les mecs, ils avaient tous une Coupe du Monde à jouer. Donc, c'était cuit pour toi. Mais tu vois, moi, les histoires de « Ouais, mais il n'arrive pas à mettre les gens sur le banc, etc. » Non, 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 mon pote. Non, mon pote. Quand tu es arrivé, tu savais. Moi, je veux juste reparler par rapport à la déclaration. Pour moi, ça veut tout dire. Ça veut tout dire parce que on est tous témoins pour dire que le coach a été lâché par l'équipe au mois de novembre. Mais le pire, c'est qu'il n'a pas été... Je pense qu'au début de saison, il a été lâché par ses cadres. Parce que voilà, au début, il avait donné un Messi Neymar, tout le monde, tout se passait bien. Une fois qu'il a donné un Mbappé, bah, Messi Neymar, ils ont dit, bah écoute, moi, je ne veux pas faire le herbin, donc t'es dans la merde. Tu vois, c'est ce qu'ils lui ont dit. Et donc au final, il avait déjà perdu Mbappé, il a perdu les deux autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah derrière, quand t'as perdu les trois devant, c'est les mecs de derrière qui vont ramer. C'est les mecs de derrière. Alors après, on peut dire oui, il aurait dû avoir une direction assez forte pour imposer aux joueurs d'écouter les consignes du coach, etc. Moi, je suis désolé, hein. Je te mets un billet. Si Galtier voulait mettre Mbappé, je ne sais pas, je pense pas. Mais si Galtier voulait mettre Neymar, Messi, ça va être un peu plus compliqué. Neymar sur le banc, il aurait pu le faire. Il y a plein de matchs, il aurait pu le faire. Il y a plein de choix qu'il aurait pu faire.
Il est déjà absent lui-même. Donc.
Voilà. Non, mais il y a plein de choix qu'il aurait pu faire. Il y a des choix aussi, des choix tactiques en cours de match où il aurait pu réorganiser son effectif, etc. Il y a plein de choix qu'il aurait pu faire. Je suis désolé. Les 28 tactiques, il a fait 75 tactiques en l'espace de 4 mois. 75 tactiques différentes. Même au bout d'un moment, je me rappelle, quand on a fait le live avant la Coupe du Monde, on savait même plus au quoi on jouait. Est-ce qu'on joue en 4-3-3? Est-ce qu'on joue en 4-4-2? Est-ce que finalement, on repassait sur 3-5-2? On savait même plus. Lorsqu'on
c'est
a recommencé
quoi,
attends, les lives.
C'est quoi le schéma type de Galtier déjà?
C'est le 4-4-2.
Non mais au PSG.
Le 3-5-2.
Les gars, il a tapé quoi? Il a fait le 3-5-2. Il a fait le 3-5-2 avec deux pointes hautes.
3-4-1-2.
Après, il a fait le 3-4-1-2. Après,
4-3 et 4-4-2.
Voilà. Au début, il avait fait 2-9. Après, il a mis deux pointes. Il a mis Mbappé en pivot. Après, il a fait quoi? Il est passé en 4-3-3. Après, il est passé en 4-4 de losange. Après, il est passé en 4-4-2 à plat. Après, il est passé en 3-5-2.
Blessure de Neymar, 3-5-2 avec un vrai milieu à 3 et une vraie défense à 3 aussi. Tu vois, 3-1-4-2 contre le Bayern aussi.
Voilà. Après, tout ça. Et en plus, je suis gentil parce que là, je parle uniquement tactique. Je rentre même pas dans les choix tactiques. On va même pas rentrer dans les Marquinhos au milieu, animation, Ramos à droite, ouais. À gauche, Danilo qui est défaut au milieu, qui est défaut en défense, on comprend plus. Nuno Mendes, il y a des matchs où il est très très haut sur le terrain. Zaire Emery, des fois, alors Zaire Emery, moi personnellement, qu'il utilise en tant que super sub, je peux comprendre. Mais bon, ça c'est autre chose.
Zaire Emery, il joue au milieu, oui, après il joue les défenseurs centrales,
latéral, ailier, milieu, 8.
Et en plus,
il a mis partout, hein, ouais.
Me dire ça, tu pourrais dire, ouais, mais il a pas eu le choix, il a eu beaucoup de blessés. Mais c'est lui qui a voulu réduire l'effectif avec Campos.
Donc, assumez, les gars. Est-ce que tu te rappelles les déclarations de Galtier sur Vitinha, le... Ouais, Vitinha, franchement, ses performances sont pas ouf, mais il est mal utilisé. Mais c'est alors... qui le coach? C'est qui
l'utilise? Moi, je veux... Mais faites gaffe, on en parle juste après, justement, de la gestion des joueurs. Donc, parlons pas trop de la gestion des joueurs, parce que sinon, après, notre sujet sera bouffé, je crois.
Ouais, on va empiéter sur notre sujet, on sera un seul sujet, sinon, t'as tout à fait raison.
Bah oui, et sur... Après, voilà. Donc, voilà, et puis après, je m'arrêterai là. Tirer sur les jeunes à longueur de temps. Des fois, j'en suis sûr, les jeunes, ils sont même pas... À l'entraînement, c'est ce qu'il fait, j'en suis sûr et certain. Sûr et certain. Parce que les trois devant, grand seigneur, t'as rien dans le pantalon, tu peux pas le faire.
Il va nous inventer
le 49-3, t'inquiète, Mouloud. Il va nous inventer le 49-3, t'inquiète. Le 4-9-3, t'inquiète.
Le 4-9-3, ce sera encore mieux. Là, pour le coup, on aurait un petit avantage sur les
autres. Non, mais tu vois, et pour m'arrêter là, la gestion des jeunes, alors, il les a fait jouer, hein, ça, on peut rien dire. Les jeunes, par contre, pour le coup, s'ils n'ont pas montré satisfaction, c'est aussi leur faute aussi. Mais la gestion de tirer dessus, mais c'est, après Bayern,
on en parle après des jeunes, Barry. C'est le sujet 2 après.
vas-y, bref. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, bref, en tout cas, juste pour dire qu'il s'est abordé tout seul. Et puis, dans tous les cas, pour moi, circonstances atténuantes, il y en a très peu parce que oui, il a eu beaucoup de blessures, mais il y a beaucoup plus de circonstances aggravantes que des circonstances atténuantes. Mmh. Voilà. Oui, il y a la direction. Oui, la direction, c'était bidon. Oui, les joueurs, c'était bidon. Oui, la direction sportive a été bidon. Mais ça a été surtout aggravé parce que le coach était bidon. Et en plus, qu'on pose dès le début, dans sa manière de mettre le 3-5-2 en place, ils étaient complètement plantés avec tous ces joueurs techniques et sans joueurs. Bref, ça, c'est un autre débat. Alors, du coup, on amorce le deuxième sujet. Et en plus, là, ça va un peu englober par rapport aux jeunes. Alors, c'est la déclaration de Blaise Matuidi, monsieur Blaise Matuidi, qui dit « Le PSG manque d'un ADN Paris, un ADN Île-de-France, un ADN francilien. » Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous trouvez qu'on en fait beaucoup trop avec ce projet Grand Paris?
Vas-y, tonton, je t'en prie.
Bah, à la base, moi, perso, j'étais fan d'un projet Grand Paris, mais il faut le faire correctement. Le but, c'est pas genre prendre des joueurs parisiens pour prendre des joueurs parisiens. Si tu me dis que dans ton projet... Tu comptes faire une colonne vertébrale de ton équipe avec les meilleurs joueurs qui viennent de l'Île-de-France. Moi, je suis OK. Moi, si tu me dis, par exemple, tu veux un projet et ton projet, il faut qu'il soit axé autour de l'Île-de-France. Et dans ton projet, il y a Mbappé dans l'attaque, il y a Ibou Konaté dans la défense, et tu as un milieu de top niveau, OK. Par contre, si c'est juste pour prendre des joueurs de Paris, et les empiler, et qu'en fait, ils ne soient pas forcément bons et qu'ils n'aient pas forcément l'esprit PSG, même s'ils sont parisiens, il n'y a pas trop d'intérêt. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas parisiens et pourtant ils arrivent au club et tu as l'impression que c'est des parisiens. Parce qu'ils ont une mentalité qui correspond à ce que tu as envie de voir quand tu es supporter parisien.
Javier Pastore.
Sans les citer, je veux dire, si tu prends des. Je veux dire, le projet en soi, il a déjà existé, le projet banlieue canal au début des années 2000. Est-ce qu'il a marché? Non, parce qu'il a mal été organisé. C'est comme tout projet. C'est pas recruté, regarde, parce qu'il y en a, ils nous disent, ouais, le problème au PSG, c'est les Espagnols, c'est les Argentins. Alors que si tu prenais d'autres Espagnols ou d'autres Argentins dans cette équipe et que tu les mettais à la place de ceux qu'on a, les mecs, ils diraient, les Espagnols et les Argentins, c'est des super joueurs de foot. Donc au final, c'est pas le lieu où tu recrutes les joueurs qui est important, parce que le vivier parisien en soi, c'est top 3 mondial et c'est pas troisième. C'est qui tu vas recruter dans ce vivier et pour quelles raisons surtout. Parce que si c'est pour me dire, je vais prendre Manu Koné parce qu'il est grand noir et je vais le mettre numéro 6, il n'est pas 6. Ça ne servira à rien. C'est juste, tu feras du parisien pour dire que c'est du parisien et ça ne va pas marcher. Il faut le faire, mais de manière cohérente.
Non, mais en fait, ça nous ferait plaisir à tous d'avoir un peu plus de joueurs français dans l'équipe, un peu plus de joueurs formés en Île-de-France, formés à Paris, évidemment. Mais il ne faut pas non plus tout mélanger. Si tu as des très bons parisiens, oui. Tu as des très bons français, oui. Mais c'est... Juan Bernat, quand il arrive, il s'acclimate très bien, il est très bon. Nuno Mendes, là, j'ai vu le commentaire passer. Voilà, Nuno Mendes, t'as l'impression qu'il a le PSG dans la peau alors que c'est un Portugais. Kim Min-jae, là, de Naples, vous croyez qu'il a le Napoli dans la peau? C'est un Coréen, il jouait au Fenerbahçe, mon pote. Mais quand il arrive au Napoli, il s'acclimate tout de suite à la culture du club, etc. C'est dans la tête, tu vois, c'est dans l'esprit, comment dire, sa personnalité. C'est un mec respectueux, c'est un mec qui bosse, qui respecte la culture du pays, qui respecte le club, c'est un professionnel. Donc voilà, donc ton rabot, tu as des joueurs français, ils ne respectent même pas ça. Donc tu peux prendre des joueurs français, même des joueurs en Île-de-France, tu as des jeunes du centre de formation, ils ne respectent pas le club, ils n'en ont rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est jouer et ils n'en ont rien à foutre du PSG. Donc ça ne veut rien dire. Il y a des mecs du centre, ils ne te rendront pas service, alors que tu as des mecs d'ailleurs, comme Nuno Mendes, qui te rendront de fiers services et qui vont mouiller le maillot et mourir pour ton club. Donc ça ne veut rien dire. Évidemment que ce serait une bonne chose d'avoir un peu plus de Français et des jeunes qui ont vraiment l'ADN PSG, qui sont formés au PSG par exemple, Mais attention à ne pas tout confondre, il y a des fois, ça ne sert strictement à rien.
Andreas, faut pas faire monter le message sur Pastore, hein, parce que...
Si, on fait monter tous les messages sur Pastore.
Je suis désolé,
vas-y. J'enchaîne maintenant. Je veux dire, surtout qu'en plus, c'est sur la base d'une déclaration de Matuidi, comment tu peux imaginer deux joueurs qui interprètent le plus Paris dans sa pluralité quand tu as Matuidi d'un côté et Javier Pastore de l'autre? Pour moi, tu as un tableau de Paris. Tu as le Paris de Bébel et t'as le Paris de Bébel et tu as le Paris des banlieues. Ça y est, t'as défini le tableau de Paris et aucun des deux.
Enfin, si vive la banlieue.
Les banlieues parisiennes, Marie-Mathieu, ouais. Ok, my bad. Mais t'en as un seul des deux. Pour répondre à la question, le truc, c'est que moi, déjà, j'aimerais bien qu'on soit un projet de foot. Après, on verra un projet XY, qu'on soit déjà un projet de foot. Parce qu'en fait, si tu veux, là, pour l'instant, en disant, on a fait quoi? On a fait projet marketing. Alors, il y a une petite erreur de bifurcation. Les deux, trois premières années, ça a commencé comme un projet de foot. Avec Leonardo, puis finalement les Qataris ont dit oula, projet de foot, c'est pas ce qu'on veut, on fait un projet marketing maintenant, on commence à acheter des stambouliers pour bien flinguer le milieu, on continue machin. Tu parlais de Jean-Claude Blanc tout à l'heure, ça a été un développé au niveau du projet marketing exemplaire, on a été super fort là-dedans, et maintenant avant de vouloir un projet A, B, C, D, E, F, G, H, et je pourrais aller jusqu'à Z, commençons tout simplement par un projet de foot. Puis une fois qu'on aura un projet de foot, on se demandera quel genre de foot on veut. Mais déjà, qu'on construit un projet de foot, parce qu'on en est loin en fait.
Mais ça revient au-delà.
Et puis même dans l'organigramme aussi. Dans l'organigramme aussi, tu as besoin d'avoir des mecs qui représentent Paris, qui ont joué au PSG. Des rails, des Paoletta, des Maxwell, des Mota, des Zlatan, peu importe, mais des mecs qui ont vraiment mouillé le maillot, qui savent ce que c'est de jouer au PSG, etc. Parce qu'on peut aller chercher des Luis Fernandez et tout, mais c'est pas pour autant que tu peux pas aller chercher des Maxwell et des Ibra qui ont joué, tu vois, récemment.
Regarde, Rico, pour citer un exemple, il y a une équipe qui nous a boosté en Ligue des Champions qui s'appelle le Bayern. Le président, il s'appelle Oliver Kahn, il a été gardien de cette équipe. Oui. Et le DS, il s'appelle Brazzo et qui est Salihamidžić. Désolé pour la prononciation catastrophique, mais lui aussi est un ancien joueur du Bayern. Avant, c'était qui? C'était Rummenigge et Uli Hoeneß. Ces mecs-là, c'était le Bayern. Et vous inquiétez pas, Thomas Müller, il y sera dans la direction du Bayern et on ne sera pas étonné. Et ce sera un très bon dirigeant. Parce qu'il y a un truc qui se transmet. Pourquoi on fait pas ça à Paris? Parce que peut-être que les Qataris, eux, ils veulent construire leur propre modèle. C'est pas le modèle du PSG ni les anciens du PSG qui les intéressent. C'est leur modèle à eux.
Mais après, le problème avec ça aussi, c'est attention les personnes. Parce que tu vois, par exemple, un Luis Fernandez, il est archi-conservateur. Tu vois, quand tu entends Luis Fernandez faire son 11 idéal qu'il voudrait au PSG, il prend que des Français. Tu vois, il y a des mecs qui sont archi mauvais dans son 11, mais ça ne le dérange pas. Donc, tu vois, à un moment donné, il faut aussi avoir les profils adéquats, tu vois. Parce qu'il y en a, il y a des anciens, ils n'ont vraiment pas les idées claires.
Mais après, tu n'es pas forcément obligé de les intégrer vraiment dans le sportif. Tu peux les intégrer de 10 000 manières. Là, tonton parlait du Bayern. Effectivement, tu vas avoir un Oliver Kahn et tu vas. Mais dans tout l'organigramme du Bayern, il y a quoi? Il y a 30-40% dans les gens qui comptent, qui machin, qui truc. Qui sont d'anciens joueurs qui ont marqué l'histoire du club.
C'est des ambassadeurs.
Par exemple, un Paoletta qui viendrait en un claquement de doigts, tu lui proposes un vrai rôle de médiation, par exemple, avec les supporters ou que sais-je, il vient tout de suite. Et c'est tout bête, mais t'es pas forcément obligé de les mettre dans les sportifs. C'est juste ramener un petit peu de la culture, de l'histoire du club. Mais on l'a dit parfaitement, c'est-à-dire que les Qataris ne sont pas venus pour mettre en avant le Paris Saint-Germain, ils sont venus pour mettre en avant leur soft power au travers du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est un vaisseau et c'est pas une finalité pour eux. Et voilà, et donc du coup, le passé, il s'en cogne un petit peu. C'est Thiago Motta qui le déclarait quand il est arrivé, qu'il a halluciné quand dans les couloirs, il y avait rien qui parlait du club avant. Il n'y avait aucun poster d'avant, etc. Il se disait, mais c'est dommage que le club ne vende pas ça. Mais ce n'est pas l'intention des Qataris. Donc à partir de là, c'est un débat clos, quoi, en fait, malheureusement.
En fait, ça c'est même Patrice Evra te l'a répondu. Là, j'ai écouté tout à l'heure son podcast avec ce Rotten sans flamme. Et oui, c'est même Patrice Evra, oui, qui donne des leçons au Paris Saint-Germain. Mais pour le coup, d'habitude, moi, j'aime pas les donneurs de leçons de légendes d'autres clubs qui viennent. Mais pour le coup, lui, j'ai trouvé très intéressant ce qu'il dit. Il dit que lui, il vient souvent au Parc des Princes. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais Patrice Evra, avant d'aller à United, avant d'aller à Monaco,
oui,
Patrice
Evra est un...
Voilà, c'est un mec de Brétigny et qui a grandi dans les travers du Parc des Princes. Donc voilà, il connaît quand même l'histoire de ce Paris Saint-Germain-là. Il le dit lui-même. Ce qu'il trouve bizarre, c'est que lui, lorsqu'il vient au Parc des Princes, il ne voit jamais en tribune des mecs comme Valdo. des mecs, bah, c'est, pourtant c'est quand même des mecs, c'est des noms, tu vois. Et alors, il y a des rails qui vont, tu vois, des rails, des Pauleta, mais bon, en même temps, ils sont tellement grands pour le Paris Saint-Germain que forcément, tu es obligé de les inviter. Mais voilà, des mecs comme ça. Amara Diané, par exemple, Amara Diané qui t'a sauvé d'un match. Alors pour moi, c'est pas une légende, hein, mais il a quand même une ligne dans l'histoire du Paris Saint-Germain, il n'a jamais été invité. Je peux t'en citer plein, hein, des joueurs, hein, je peux t'en citer plein, ils n'ont jamais été invités. Et il dit quoi?
Il y en a eux-mêmes qui le disaient d'ailleurs.
Et il dit à contrario que lui, quand il y va, il y a des Kardashian, il y a des Cyril Gann, il y a des, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et voilà.
Yannick Noah, pourquoi tu ne vois pas plus que ça au stade?
Voilà, Yannick Noah qui, pour le coup, est un acteur majeur de la Coupe des Coupes de 96. Mais tu vois, ça, tu sais, je sors que tu parles avec des jeunes, non, des mecs de ma génération, il y en a très peu qui le savent.
Non, très peu qui le savent. C'est pas transmis voilà, par la direction actuelle, c'est exactement ce que tu vois, disais
Thiago Motta. Je vais même te dire encore plus loin, on en a parlé l'année dernière, je te rappelle, Toto, quand on a fait ce qu'il fallait changer au Paris Saint-Germain, j'en ai parlé.
Oui,
dans l'ancienne boutique, ouais. Dans l'ancienne boutique au Parc des Princes, lorsque tu montais les escaliers, tu avais un mur avec les grands moments du Parc des Princes, les grands moments du PSG, pardon. Aujourd'hui, tu l'as plus. Alors moi, j'ai fait la visite du Parc des Princes. Là, oui, il y a un Hall of Fame avec tous les maillots, des anciens maillots, etc. Mais si tu regardes bien, le 3/4 des maillots, c'est les maillots de QSI. Le 3/4 des maillots, c'est les maillots de QSI. Et c'est vrai qu'il y a très peu de maillots. Et puis même, les maillots qui sont là, il y a des maillots qui sont légendaires, mais on ne te raconte pas l'histoire. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Je veux revenir sur l'histoire du PSG ADN. Juste pour revenir sur un truc que j'ai vu dans les commentaires. Les histoires de « ouais, le projet Paris ne fait que les mecs de cité ». Alors les gars, moi je suis un mec de quartier, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, je vous dis un truc, hein, quand on parle de ADN PSG, l'ADN Paris, on ne parle pas du tout d'histoire de « oui, la banlieue, patati patata », c'est pas du tout ça. Tu vois, là vous êtes à l'opposé de l'essence même de cette position-là. Ce que nous les supporters disons quand on parle d'ADN parisien, d'ADN Île-de-France, c'est pas de prendre bêtement des mecs, oui, pour faire oui, nous c'est la cité, etc. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a passé l'âge de faire des trucs comme ça. C'est juste que nous, on aimerait avoir une structure d'équipe, un squelette de mecs qui nous représentent. Après, attention, les mecs qui te représentent ne sont pas forcément des Parisiens, ça ne veut rien dire. Tu peux leur inculquer ça. Moi, je suis désolé. Marquinhos, il est dans la tourmente depuis 2 saisons parce que voilà, son niveau est bof-bof, etc. Mais Marquinhos, lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain et globalement jusqu'à 2021, il avait l'ADN parisien. Verratti, il avait l'ADN parisien. C'est ce qu'on demande, c'est l'ADN. Il faut savoir un truc, c'est qu'à Paris, on peut parler, parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de nous calquer une identité qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on essaie de nous dire, oui, l'identité parisienne, c'est le beau jeu, parce qu'on a eu, Laurent Blanc qui avait pratiqué, entre guillemets. Parce
que mais c'est surtout les années 90, le beau jeu.
Mais si tu regardes bien, dans les années 90, l'une des plus grosses légendes de ce club, c'était Raï. C'était Georges Weah. Est-ce que ces mecs-là sont parisiens? Non. Et pourtant, ils ont l'ADN parisien. Pourquoi? Georges Weah un peu moins. Pourquoi un mec comme Raï, un mec comme Pauleta aussi, pourquoi ces mecs-là sont adorés par Paris Saint-Germain? C'est pas parce que déjà, l'ADN de Paris Saint-Germain, l'identité, pour moi, c'est simple. C'est la personnalité. Ces mecs-là, ils avaient de la personnalité. Ils avaient une personnalité qui, en plus d'avoir un bon niveau sur le terrain, qui correspondait aussi au niveau de l'équipe à l'époque, ils avaient une bienveillance qui faisait que les supporters les aimaient. C'est ça la première chose. Pour moi, c'est l'identité de notre Paris Saint-Germain, c'est la personnalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une équipe qui manque de personnalité. Donc quand on parle d'ADN Paris Saint-Germain, alors oui, on aimerait avoir des mecs qui sont issus de l'Île-de-France. Maintenant, on va prendre parce que tu es ici d'ici, on va te prendre bêtement. On va pas aller prendre un mec de district pour le mettre défenseur à la place de Marquinhos parce qu'il est parisien. Non. Mais par exemple, si demain
tu me dis... Il sera meilleur que Marquinhos depuis quelques mois. Hein. C'est pareil, un mec de district sera meilleur que Marco.
Possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, un Ibou Konaté à l'ADN parisien, il manque de la personnalité. Ibou Konaté, tu le ramènes. Vous allez me dire quoi? C'est du truc bêtement parce qu'on est des gars de banlieue, des gars de quartier. On va dire non, ça n'a rien à voir. Ce qu'on veut, c'est de la personnalité. On veut une structure d'équipe. On veut un squelette qui nous représente. Ce squelette n'est pas forcément uniquement natif de Paris, mais c'est vrai qu'en général, quand tu veux avoir un ADN de cette acabaille-là, en général, il vaut mieux avoir des mecs de chez toi. C'est juste ça qu'on demande. On ne parle pas d'histoire de... Tu vois, comme l'a dit Tonton, on n'est pas en train de dire « Ouais, il faut un Renoir long de taille qui va jouer 8. » Non, c'est pas ce qu'on demande. Ça n'a aucun sens. Tu vois, Rabiot, jusqu'à preuve du contraire, Rabiot était un peu claqué au Paris Saint-Germain. Il a le talent entre le bon et le moins bon, mais il avait cet ADN parisien-là, tu vois. Donc non, c'est pas un truc bête ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des mecs qui nous représentent. On veut juste des mecs qui nous représentent. C'est surtout sur
Facebook. Mais moi, j'insiste. Hein. Moi, déjà, j'aimerais qu'on ait du foot. Puis après, on verra si on ne peut pas. Mais déjà, on est du foot. Parce que moi, c'est moi, ça, moi, ce qui me fatigue, très franchement, hein, moi, ce qui me fatigue, c'est le projet marketing et sur le terrain, qu'on soit la risée, quoi. Qu'on soit abonné à la stratégie de la loose, qui manque toujours un truc, qui est les problématiques de direction. Déjà qu'on joue au foot. Ensuite de ça, tant mieux s'il nous représente. Mais déjà, c'est un club de foot. Donc, qu'on commence à part jouer au foot.
Quoi. Voilà, tu vois, c'est un truc.
Le problème, c'est exactement ce qu'il disait dans les commentaires. C'est que le Qatar n'a ni l'ADN foot, ni l'ADN PSG. Le Qatar a l'ADN business. Donc, on a l'ADN business au PSG. On est un super club marketing. Les loges, tu as le nom des loges, tu as les Paoletta et compagnie, mais tu n'as que le nom. Parce que dans les loges, tu as les Kim Kardashian, les Toutatis, les influenceurs TikTok et compagnie. Mais tu n'as pas de légende au stade. Donc, tu n'auras jamais une ADN foot, une ADN PSG tant qu'il y a les Qataris. J'en suis certain.
Je suis obligé de te reprendre par rapport à ça. En fait, les influenceurs, il faut savoir un truc, c'est pas le. Alors, peut-être que Kim, je sais pas. Je pense que par contre, les influenceurs, les Toutatis, etc., c'est pas le club qui les invite. En fait,
il faut savoir qu'ils ont vendu les loges aux partenaires. C'est une question d'argent. C'est pour ça qu'ils sont dedans.
Oui, mais ça, c'est dans tous les clubs, ça.
Bah oui, mais
c'est partout pareil.
Mais ils s'en foutent de qui il y a dedans. Ils ont vendu, ils ont fait de l'argent, ils sont contents.
Tu vois, là on s'égare. Juste moi sur l'histoire, là je suis complètement d'accord avec Dreas. Nous, ce qu'on veut, c'est du jeu. Donc quand on parle d'ADN Paris, oui, ce serait de ramener les meilleurs Parisiens possibles dans cet effectif-là pour avoir justement cet ADN-là qui nous représente. Maintenant, faut pas être bête et méchant. On va pas aller chercher un mec qui est claqué parce qu'il est claqué. On va pas aller chercher un mec qui joue 8 pour le mettre 6 pour se dire ah bah oui, les Parisiens, on peut le mettre ici. Non, Tonton, il vous l'a répondu. Manu Koné n'est pas 6, c'est pas parce que Manu Koné est Parisien qu'on va le faire jouer 6. Non, il faut qu'il y ait de la cohérence. Moi, le but pour moi, c'est d'avoir les meilleurs joueurs au meilleur poste pour avoir le meilleur collectif possible. Pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est pas d'avoir les meilleurs joueurs à chaque poste. Non, c'est d'avoir les meilleurs joueurs possibles dans ton collectif. Pour avoir
du football, un bon coach, un directeur sportif qui peut travailler en toute liberté. Et puis
voilà, maintenant l'ADN Parisien, oui, c'est. L'ADN parisien, oui, c'est vrai qu'il peut être plus facile lorsqu'il est inculqué par des mecs natifs de cette ville, mais ce n'est pas uniquement des mecs natifs de cette ville pour être bête. Tu peux l'avoir, cet ADN-là. Mais maintenant, pour avoir cet ADN-là, il faut que déjà, dans la structure directionnelle du club, il faut déjà qu'il y ait des anciens. Tu vois, on ne demande pas de mettre Raï au directeur sportif. Hein. Mais Raï, il n'a rien à faire au Paris FC, les mecs. Raï n'a rien à faire au Paris FC. Il faut arrêter de me prendre pour un fou. Raï, capitaine Raï, n'a rien à faire au Paris FC. Rien du tout. Il n'a rien à faire à Charletti. Il doit être au Parc des
Princes. Dirail, ça perturbe le Rail. C'est Rail. Captain Rail.
Ouais, moi je dis Rail.
Tu vas prendre Captain Rail, tu n'es pas de
mon père.
Captain Rail.
Ça vient de mon père qui dit Rail. C'est pour ça que, bref. Mais il n'a rien à faire là-bas. Je vous donne un autre exemple. Après, je m'arrête là parce que là, on tourne en rond et puis je pense qu'on dévie du sujet. Mais le jubilé de Georges Weah, il a demandé à faire son jubilé. Il lui a été refusé. Bref. Ça, c'est tout juste pour vous dire. Il faut que sa DNA soit là.
On passe la suite, la barre.
Voilà. Maintenant, on change de sujet parce que là, on tourne en rond. Et je pense que vous avez un peu compris d'où venait l'histoire d'ADN PSG. On part sur l'autre sujet. Là, on va parler un peu des jeunes.
Il a joué à l'OM aussi. Hein.
C'est vrai, en fin de carrière.
Et puis, il a fini sa carrière là-bas aussi.
Merci de m'avoir fait mal. C'est pas grave. Georges Weah qui est un peu le fils de mon père. Swapper qui nous dit, il suffit juste de voir le nombre de Lotiti qui aujourd'hui serait tellement indispensable à notre effectif. Maignan, Coman, etc. T'as pris de mauvais exemples. Parce que lorsque Maignan part, les gars, Maignan n'était pas destiné à faire la carrière qu'il a actuellement.
Il était moins bon qu'Areola
même. Il était beaucoup moins bon qu'Areola. Et ensuite, c'était quoi
Coman. Le problème de certains joueurs comme ça, c'est... Ce qu'on aurait pu faire, c'est au moins les prêter. Il y en a qu'on a vendu trop vite. On aurait dû les prêter pour voir ce que ça donne, etc. Ça a été mal géré, c'est sûr.
Il s'est passé un truc de fou quand même. Coman est allé voir et a rencontré Olivier Le Temps pour demander à être prêté. Et Olivier Le Temps a refusé de le rencontrer. Mais lui a fait passer le message qu'il était hors de question qu'il soit prêté, qu'on avait besoin de lui, mais que pour l'instant, il allait peut-être rester sur le banc. Et la seule chose que demandait Coman, c'était juste de pouvoir partir pour pouvoir faire une saison ailleurs, pour pouvoir jouer. Et après, tout le monde est tombé sur Coman. Et ça, fouillez sur le site Les Titis du PSG, vous retrouverez l'histoire. Mais c'est Le Temps qui a foutu sa merde, qui a fait de la merde. De toute façon, Le Temps, voilà. Le Temps qui a foutu sa merde. Et Coman est parti parce que juste, on lui disait non. Et alors que la seule chose qu'il voulait, c'était prêter un an pour avoir du temps de jeu, pour revenir en ayant du temps de jeu. C'est un petit détail qui compte.
Et d'ailleurs, un des Titi parisiens qui a explosé chez nous, quand il explose chez nous, entre guillemets, hein, c'est Rabiot, après un prêt concluant à Toulouse. Les Nkunku, les Maignan, on ne leur avait pas prévu d'être aussi forts, mais si tu les avais prêtés et que tu avais mieux géré ces dossiers-là, tu aurais pu voir leur potentiel. Il est là le problème.
Mais à l'époque, par exemple, pour Nkunku, on était en chien d'argent.
Ouais, c'est ça le souci.
On est en chien d'argent. Acheté des marges, je rappelle.
Mais c'est, hein, c'est le sujet d'ailleurs. Et Kiteke, Shadai, vente ou prêt. Et c'est pile là-dedans.
C'était justement le sujet. Alors, du coup, on a parlé de, on a parlé un peu des Kiteke tout à l'heure. On va parler des Shadai. Alors, qu'en pensez-vous, doit-on les vendre ou doit-on les prêter, Tonton?
Normalement, logiquement, si tu as un club qui fonctionne bien, tu prêtes les deux, dans le sens où El Shaddai est jeune, il n'est pas encore prêt, il a besoin d'accumuler du temps de jeu et pas juste d'être envoyé à l'abattoir contre le Bayern pour qu'on lui crie dessus derrière. Donc, c'est un joueur qui n'a pas forcément les qualités qu'on croit quand on le voit, et elle ne se voit pas spécialement parce qu'il est super mal utilisé. Et je pense que là, tu risques de le perdre, en fait, si tu continues à le garder dans l'effectif et à le gérer comme tu le gères. Donc je pense que mieux c'est de le prêter, comme ça tu as une bonne idée de ce qu'il vaut réellement. Et si au pire El Shaddai ça ne fonctionne pas, tu pourras toujours le vendre après un prêt. Et pour Ekitike, je pense la même chose, mais Ekitike dans le sens où il faut le prêter lui par contre dans un club qui joue la Ligue des Champions et qui fait progresser les jeunes comme Leipzig, comme Benfica, comme Porto, comme Salzbourg. Parce que le problème c'est que au PSG, les jeunes, à part Nuno Mendes, Mbappé, il n'y en a aucun qui progresse, mais eux, c'est plus des joueurs générationnels que des jeunes classiques. Ouais. Donc ça ne marche pas. Donc je pense qu'Ekitike, tu dois le prêter dans un club qui sait faire progresser les jeunes. Et pareil, dans un an, tu pourras en tirer les conclusions, même deux ans. Hein, tu peux lui faire un prêt de deux ans, ça peut lui être bénéfique aussi. Et comme ça, tu tires un bilan à la fin de ce prêt et tu vois s'il est au niveau du PSG ou s'il doit être vendu.
Petit aparté, je suis grave d'accord avec ce que dit Yacine. Le PSG veut des joueurs stars pour se légitimer. Merde, il a disparu, si on peut le mettre.
Il est là, il est très vrai.
C'est là où c'est la force de l'institution. Après l'histoire du Real, voilà, on est quand même un club jeune. Mais pour Etiquette et El Shaddai, oui, moi pour moi, il faut les prêter. Alors après, pour El Shaddai, moi, personnellement, je trouve qu'il y a pas. Je trouve qu'il n'a pas le niveau. Après, c'est peut-être trop tôt pour en parler. Il ne faut pas non plus tirer de conclusions. Donc non, je pense qu'un prêt, ça lui sera bénéfique pour lui, pour sa confiance, pour son temps de jeu. Et puis avoir aussi un contexte un peu moins nocif, parce que exploser dans un PSG comme aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'avant. Donc non, pour moi, il faut prêter. Pareil pour Ekitike, sauf si tu peux l'inclure dans un deal. J'ai vu passer, même si j'y crois pas trop, qu'on pourrait avoir Colomwani contre argent plus Ekitike. Si vraiment tu peux faire ça, oui, dans ce cas, tu peux vendre Ekitike, mais sinon, autant le prêter. Et juste par rapport à ceux qui disent pour Kalimuendo, on est d'accord, on aurait dû le garder, mais ça a été fait simplement question d'argent, comme d'autres jeunes avant. C'était une question d'argent, le fait d'avoir 25 millions tout de suite et d'avoir Ekitike à 35 dans un an. En fait, tu payes, tu gagnes de l'argent tout de suite et t'en perds qu'un an après. Donc, c'était pour le bilan comptable, tout simplement.
Et repousser les problèmes l'année d'après, comme on fait depuis 6 ans. Il y a juste un message qui vient de passer. Nuno Mendes générationnel, pas pour moi, c'était même pas générationnel, c'est un Fiori Class dans tout le sens italien du terme. C'est juste que les Fiori Class d'habitude c'est 10 ou des attaquants, voire des 8. Là c'est un Fiori Class latéral. On ne mesure pas à quel point le poste latéral est devenu très très important dans le foot moderne, et c'est un joueur qui est capable de faire des différences. Si tu regardes en Ligue des Champions, les joueurs qui ont le plus marqué les campagnes récentes, c'est les Trent j'ai oublié son nom. Voilà, ça va être Cancelo à City, etc., etc., et tu les enchaînes, et les latéraux sont super importants. Et Nuno Mendes, tu vois sa capacité d'adaptation, le fait qu'avant il jouait à 5, il s'est retrouvé à 4, il a mis 2 mois pour apprendre à défendre à 4, et tout à coup son couloir est devenu infranchissable. Ensuite de ça, on est repassé à 5, il est repassé l'un dans l'autre un peu comme il veut. Il est capable de se recentrer, il est capable de prendre son aile, il est capable de centrer, il sait quand monter. Il lui manque un peu à la finition, mais sur les centres tu peux rien lui reprocher, parce qu'à Paris on joue 109. Nuno Mendes, s'il y a quelqu'un qui le critique, faut tout simplement qu'il apprenne à revoir le foot, parce qu'effectivement c'est un crack monstrueux. C'est un monstre.
Il y a des gens qui ont le droit de pas être d'accord avec nous.
Ah oui, mais moi je leur dis.
Tu me cites des mecs qui ont l'âge de Nuno et qui sont meilleurs et qui font mieux. Et même,
il n'y en a pas. Franchement, il est trop fort. Voilà.
Et pour revenir sur la question, moi, El Shaddai, je suis vachement moins dur qu'avec vous. Le contexte et l'utilisation qu'on a fait Galtier, on est proche de l'assassinat. On lui donne des bouts de match. Alors après, en effet, il se retrouve face au Bayern, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il a trop de blessés, etc. Et donc, il le culturise. Mais si tu es dans cette situation, tu es censé anticiper, tu es censé savoir ce qui se passe et tu es censé te dire, El Shaddai, vu qu'il y a le Bayern qui arrive, que c'est possible qu'on se retrouve dans cette difficulté, je vais le faire plus jouer avant. Il lui donne des bouts de match de rien du tout. il le fait jouer dans un match, le gamin, il a une pression de bâtard, excusez-moi le mot, mais il n'y a pas d'autre mot en la circonstance. Et qu'est-ce que Galtier fait après le match en conférence? Ben, la seule chose qu'il va dire, enfin, pas, c'est pas la seule chose qu'il va dire, mais il va dire entre autres que El Shaddai, en effet, n'avait pas le niveau. Mais si tu fais que dans quel univers tu prends un jeune, tu le traites comme ça et tu attends qu'ensuite le mec soit en confiance pour performer et pour progresser? C'est juste de l'assassinat en règle. Donc El Shaddai, il faut le prêter en espérant, parce que tu as des joueurs comme ça qui mettent 4-5 ans à se relever de ça et qui s'en relèvent jamais, parce que c'est un joueur qui a un potentiel, même s'il il a un côté un peu pâteux.
Cette année, frère.
Et, hein,
il a 18 ans cette année, ouais, c'est un défenseur central.
Il a un potentiel, même s'il a un côté un peu pâteux, et c'est vrai qu'il était assez technique pour sa taille, mais c'est pas tout de suite, en tout cas, le plus grand technicien, mais il y a un vrai potentiel, on va espérer qu'il va se remettre de ce qu'a fait Galtier, qui... Enfin, moi, je suis très en colère contre Galtier par rapport à lui, et il faut le prêter absolument. Et pour l'étiquette, bah, moi, ceux qui suivent, qui m'ont déjà vu, savent ce que j'en pense. Hein. Pour moi, c'est peut-être O'Haro, en espérant que s'il prend un peu de muscle, il arrivera enfin un jour au niveau d'O'Haro. Et j'ai un immense respect pour Guillaume O'Haro. La carrière de Guillaume O'Haro, qu'elle soit sur le terrain ou même en dehors du terrain, avec les sons, et notamment sur son Paname, allez le voir sur YouTube, est fabuleuse. C'est vraiment... Mais c'est juste l'étiquette qui nous est vendue comme un crack limite générationnel, pour le coup. J'y ai jamais cru, j'y crois pas. Et lui, je pense qu'il faut le prêter pour qu'il prenne de la valeur pour qu'on puisse le vendre.
Bah moi, je vais répondre ça en vite fait. El Shaddai, je suis plus ou moins d'accord avec vous, il faut le prêter. Maintenant, maintenant voilà, il n'a pas été bon cette saison. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Moi, je suis moins catégorique sur l'histoire du Bayern. Par rapport au Bayern. Alors, je suis d'accord avec toi, il aurait peut-être joué un peu plus. Tu vois, il aurait peut-être dû jouer, pardon, un peu plus. Maintenant, tous les jeunes, c'est toujours comme ça, dans tous les clubs. Hein.
Cite-moi un jeune qui fait quasi son premier match dans un match à confrontation directe. C'était un huitième de Ligue des Champions contre le Bayern, en sachant que l'équipe est sous pression et très critiquée. Combien de mecs de 17 ans tu vois lancer dans le grand bain sur un match comme ça? Compte-les-moi depuis 10 ans.
Il n'avait pas 17 ans, mais Kimpembe avait débuté aussi un truc comme ça.
Il avait 21 ans, il avait 17 ans, gars.
Il fait...
Oh, mais ça reste jeune.
Et il avait fait
4 ans d'écart.
C'était pas son premier match.
Non, mais il restait jeune, plongé dans le grand bain face au grand Barça de Messi, et il l'avait pocket.
Mais combien de matchs il a fait avant ce match-là? Et compare avec El Shaddai. El Shaddai, il a fait combien de matchs? Non, c'est un cas très particulier.
El Shaddai, il
n'a
même pas
10 matchs. Bon, les gars, si je peux pas me définir, peu importe l'âge qu'il a ou autre, tous les jeunes, c'est comme ça. À partir du moment où il y a une blessure, bah, t'es jeté dans le grand bain. Je suis désolé, mais tous les jeunes qui ont explosé aux yeux du monde avec des champions, c'était comme ça. Donc ils dérogent pas la règle. Moi, je veux bien que ce soit la faute du coach qui est mal utilisé. Et là, je suis complètement d'accord avec toi, Dreas. Je suis pas en train de dire que le coach les a très bien utilisés. Quoique, le coach, il les a fait jouer. Une différence des autres, des années précédentes. Maintenant, la réalité, c'est simple. Tu dois jouer, tu joues, t'es pas bon, c'est tout. Il n'y a pas 36 solutions, il doit encore apprendre. Ça prouve qu'il y a encore des choses à apprendre. Il doit être prêté, tout simplement. Pour moi, non, c'est pas rédhibitoire d'avoir un jeune qui se plante, bien au contraire. Le jeune qui se plante, c'est comme ça qu'il va apprendre. Moi, ce qui me dérange plus dans le jeune qui se trompe, c'est que quand le jeune se trompe, il se fait attaquer. Moi, il est là le vrai problème. Maintenant, est-ce que El Shaddai, il faut le prêter ou le vendre? Non, tu le prêtes. Maintenant, tu le prêtes une ou deux saisons. S'il est mauvais, il bouge. Tu vois? Ensuite, le cas est qui t'as vu comment ils ont dérobé la parole, c'est des malades ces gars-là. Mais bon, vas-y, tranquille, je dis rien. Je suis l'autre aujourd'hui, je les laisse parler. Sur le cas Ekitike, je suis dithyrambique. Oui, j'emploie des mots du dictionnaire, les mecs. Grand seigneur. Non, je rigole. Pourquoi je suis dithyrambique? Parce qu'en fait, Ekitike, c'est un joueur que j'ai voulu au début de saison. J'aime beaucoup son profil, hein. Moi, je vous le dis la vérité, ce que j'ai vu à Reims de lui, j'aime beaucoup. Maintenant, les mecs, il est débile. Je suis désolé. Moi, je suis désolé de parler cru, hein, mais je préfère parler cru plutôt que faire les détours. Il est débile. Je suis désolé, mais pour le coup, lui, on peut dire ce qu'on veut sur les jeunes, mais lui, Galtier, il lui a donné du temps de jeu, il lui a donné de la confiance, et Galtier lui a donné des consignes claires. Et à aucun moment, il a respecté les consignes de Galtier. Sur tous les matchs, moi je le vois le Galtier, parce que je veux bien qu'on tire sur Galtier, etc. C'est complètement vrai, mais moi je vois ce qui se passe au bord du terrain. Lorsqu'il parle à Ekitike, fais ci, fais ça, Ekitike ne le fait pas. T'es qui pour ne pas faire les conseils du coach? Le gars, il a quel âge? Il a 19 ans, donc il a encore tout à apprendre, et, et il a comme modèle Kylian Mbappé et il pense être arrivé à ce niveau-là. Non, mon gars. Mon gars, la signature au Paris Saint-Germain, c'est comme la signature en maison de disque. C'est pas une finalité. C'est le début. Hein, je sais plus quel artiste disait ça, c'est le début. C'est là où tu dois travailler justement. C'est pas avant. Enfin, si, avant, tu devais travailler pour arriver là. Mais surtout, pour rester là, c'est là que tu dois travailler. C'est après. C'est l'après qui va se permettre de dire que Hugo Ekitike sera un nom. Et que tu passes du numéro 44, peut-être potentiellement au numéro 9, numéro 10, numéro 11. C'est pas avant. C'est pas maintenant où tu racontes ta vie sur les réseaux. Non, il faut travailler. Et pour moi, Hugo Ekitike, alors oui, il y a le contexte parisien qui fait que c'est très difficile de développer un jeune. Tu vois, mais il y a des jeunes qui auraient s'en sortir. Rabiot, même cette saison, Zaïre Emery, il y en a quand même. Même Echadaï, hein, même Echadaï qui n'a pas été bon sur beaucoup de matchs, mais il a eu le mérite de pouvoir tenter. Si le coach l'a fait jouer, même s'il y avait des blessures, parce que des fois, il n'y avait pas de blessures, le coach le faisait jouer. Donc à un moment, c'est qu'il a donné satisfaction à l'entraînement qui a fait que. Là, il critiquait, ça fait combien de temps qu'il n'était pas rentré sur un match? Ça faisait 3-4 matchs, mais pourquoi il ne rentrait pas? Bah peut-être parce que déjà de 1, ça fait 6 mois que le coach essaie de donner des consignes et tu les écoutes pas. Et puis quand tu rentres, tu n'apportes rien. Donc pour moi, non, il faut le prêter. À part si tu peux le mettre sur dans un deal, comme je l'ai vu, pour ramener Colomboigny, tu ramènes apparemment Francfort et Chéo. Là, je peux comprendre. Tu le mets dans ce deal-là, je peux comprendre. Plus argent, il n'y a pas de souci. Tu vois,
puis avec un peu de chance, si tu le prêtes, il va prendre de la valeur.
Voilà. Et Kitike, moi, je pense pas que ce soit une erreur de casting. Enfin. Donc, à l'instant T, oui, c'est une erreur de casting parce que c'était ton seul neuf, tu vois. Donc oui, c'était une erreur de casting dans cette position-là. Maintenant, je pense que Kitike, il a du talent. C'est un pari sur l'avenir. Voilà. Donc si tu peux pas l'inclure dans un deal pour avoir un meilleur joueur, Osimhen, Vlahovic ou etc., tu le prêtes. Pour moi, c'est pas dérangeant. Le prêter, il s'aguerrit ailleurs. Il est pas bon. Salam. Mais il a 20 piges. C'est ça le truc. Salam. Je vous rappelle que lorsqu'on prend Moïse Kean était un pari sur l'avenir à la Juventus. Il part à Everton. Il floppe à Everton. Il vient, et même carrément, parce qu'à la Juventus, il faisait des bonnes entrées, mais la Juventus l'en fait partir. Je crois que c'était par rapport à des problèmes d'argent ou parce que, vas-y, ils n'aimaient pas trop ce qu'ils proposaient. Bref, je ne me rappelle plus. Il part à Everton, où il est complètement claqué contre un mur. Lorsqu'il arrive à Paris, on se dit, ouais, c'est un pari sur l'avenir. Mais vas-y, il est pété, il n'a rien fait, etc. Je vais pas dire exploser, vraiment, tu vois, exploser. Non, mais,
il fait six très bons mois, il est en surchauffe et depuis, il n'a plus rien fait, hein, le Moïse.
Alors après, les six mois d'après au Paris Saint-Germain, je te rappelle qu'il avait le Covid et on l'a senti lorsqu'il rentre contre le Bayern.
Ça fait trois ans qu'il a le Covid, parce qu'il est toujours aussi nul. Hein.
Alors je finis ce que je dis, Dreas. Si tu me coupes la parole, en même temps, je pourrais pas finir ce que je dis. Donc tu auras forcément raison. Tu vois, il fait six bons mois au Paris Saint-Germain, ensuite il a le Covid. Et là, il devient mauvais. Ensuite, il part du Paris Saint-Germain. Et après, il fait les conneries qu'il fait. Je croyais qu'il repart à Everton, il est claqué. Il part à la Juve, il est badouo. Là, il alterne entre le bon et le moins bon, mais globalement, il n'est pas bon. Mais tu vois, moi, je te parle juste du moment où il arrive à Paris. Au moment où il arrive à Paris, on disait qu'il était claqué. Au final, il explose. Je pense que Ekitike, c'est la même chose. Faut le prêter, faut s'aguerrir. S'il est bon, il revient. Tant mieux. Il est claqué. Salam. Bon courage à toi. Bon courage pour la suite de ta carrière. Et félicitations à toi. Si tu exploses, tant mieux, mais tu ne l'auras pas fait.
Moi, je pense là, que.
Moi, je le vois plutôt comme ça.
Je pense que s'il part, on aura. Enfin, là-dessus, je suis pas devin. Hein. Pour moi, encore une fois, c'est au mieux, il vise le niveau d'Oaro. On aura l'occasion de se rendre compte. Oui. Il aura pris la valeur. On pourra le vendre avec une petite plus-value. Et enfin, une petite plus-value. On le vendra à 40, quoi. On aura fait 5 millions de plus-value. Génial. Houhou. Encore un des businessmen affûtés. Et puis, il faudra trouver quelqu'un.
Oui, voilà, mais
c'est pas le niveau Paris Saint-Germain à l'arrivée, je pense.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi je parle du postulat, tu l'as déjà dans ton effectif. Tu l'as pour 5 ans. Donc, qu'on le veuille ou non, que tu vois, on peut avoir des visions différentes, tu vois, se dire que oui, il va exploser ou pas exploser. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, Dreas. Mais tu vois, tu l'as pour 5 ans. Donc pour moi, le must à faire, c'est au moins tu le prêtes une, voire une deuxième saison. Si la première saison tu l'as prêté, il est éclaté contre un mur, tu peux te dire que tu le vends. Ou alors à la rigueur, tu le prêtes deux saisons pour voir jusqu'où il peut venir. Ça fera 3 ans. Toujours pas à satisfaction. Bon, et Ekitike, bon courage à toi. Tu vois. Et là, tu aurais une cohérence. Parce que tu as pari sur l'avenir. Et sinon, si tu le vends au bout d'un pige, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu veux faire un projet de développement de jeunes et tu n'arrives même pas à mettre en place des trucs. Dès que ça capote, tu vends. Ça t'envoie un mauvais signal. Bref. Donc voilà, moi, c'était mon avis sur les deux. Je pense qu'il faut prêter un peu les deux. Maintenant, s'il y a vente pour ramener des sous, ça va me faire un peu mal. Mais je comprendrais que le club se dise, bah écoute, voilà, on les vend.
Très rapidement, je vais répondre à sa peur. Ouais, 5 millions de plus-value, j'étais à moitié dans l'ironie. C'était pour dire, ouais, on est des grands businessmen. Et en effet, si tu fais que 5 millions de plus-value, mais après, un contrat, ça s'étale. Et donc, si tu l'as gardé 2-3 ans, il ne t'a pas coûté exactement 45 millions. C'est un peu plus complexe, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Quoi.
Ouais, moi, je voulais juste répondre à Madrassa parce que bon, voilà. 35 millions, 600K par mois, etc. Alors déjà, les 35 millions, ce n'est pas équitiqué. Déjà. Et les 600K par mois, alors je suis complètement d'accord avec toi, le salaire, s'il est vrai, il est complètement démentiel. Mais il y a tellement de salaires différents qui sortent sur le truc de Kitike. Moi, personnellement, je rentre pas dans les salaires. Hein. Mais moi, les salaires, je ne parle plus de ça parce que c'est comme le 18 millions de Marquinhos, c'est encore été prouvé par l'équipe avec ses estimations que c'était pas le cas. Donc en fait, tu vois, il y a tellement de salaires qui sortent dans la presse que moi, je préfère ne pas calculer les trucs comme ça. 600K, ça me paraît énorme. Si c'est le cas, le Paris Saint-Germain sont des gros gogoles. Parce qu'il y en a qui te disent qu'il est payé même pas 1 million par an, d'autres qui te disent qu'il est payé 600K par mois. Les gars, moi, je vous dis la vérité sur les salaires, ne rentrons pas dedans parce qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. C'est entre lui et son agent, on ne le saura pas. C'est juste pour te répondre à ça. Maintenant, sur le cas des Kitike, mauvais joueur, bah, c'est vrai que cette saison, je ne peux pas te contredire. Je suis complètement d'accord avec toi. Messi, encore une légende sur la fin qui a déçu. C'est le nouveau sujet. Bah, Messi, apparemment, vous savez, hein, vous avez vu ce qui se passe. Hein, il est sur le départ. Le Paris Saint-Germain veut lui dire salam à Messi. Donc, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une légende qui a déçu? Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui ne l'a pas mis dans les meilleures conditions? Ou est-ce que c'était tout simplement un mariage qui était acté comme qui allait mal se finir dès le début? T'en penses quoi, tonton?
Bah, ce n'était pas un besoin au moment où on l'a recruté. Il répondait à aucune problématique. Il n'allait pas apporter une solution qui nous manquait dans le jeu. Donc, dès le début, tu savais que ça allait puer. Bon, tu t'es dit quand même, c'est Messi, donc ça peut le faire, tu vois. Moi, perso, j'étais fan du joueur, donc j'avais des attentes. Je m'étais dit, ça va marcher, peut-être, on va réussir à forcer le truc, et son talent, on va faire le truc. Et non. Et on n'a pas recruté de joueurs manquants dans l'équipe qui pouvaient permettre de compléter l'équipe pour qu'à la limite, bah, il puisse être meilleur que ça. Le mec, il donne pas l'impression d'en avoir envie plus que ça. Le mec, il va s'en aller. Oh zut, alors, quel dommage. Oh zut, alors, Messi va s'en aller. Comment je vais m'en remettre? Bah non, en fait, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, malheureusement, sans mettre en question tout son talent ni sa carrière. Si on parle de Messi uniquement au PSG, on ne peut pas parler de réussite. Ce serait du foutage de gueule.
Bah ouais, on s'y attendait. On s'y attendait. Après, le problème de ces joueurs-là, c'est qu'ils ont tout gagné. Messi, ce qui lui restait, c'est la Coupe du Monde. Alors, en plus de ça, parce qu'il y a des cas différents. Tu vois, par exemple, Buffon. Bon, il n'avait pas le niveau, il a été, puis il a fait sa boulette face à Manchester, mais il avait la mentalité et il avait encore envie de gagner. Ça, c'est important. Il avait encore envie de gagner, il n'avait jamais gagné la Ligue des Champions. Il le dit lui-même, à ce moment-là, il n'a jamais vu une équipe aussi forte. Pourtant, des équipes à la Juve, il y en a eu des bonnes. Mais il avait encore faim de titre, il y avait des choses qu'il n'avait pas encore accomplies, qu'il aurait pu accomplir. Et donc ça, forcément, en plus de son professionnalisme et de sa mentalité, ça fait que ça peut potentiellement être une très bonne chose. Au final, ça a été un petit flop parce que bah, il a fait cette boulette face à Manchester et son niveau n'a pas été incroyable, mais il y a quand même un potentiel. Le problème avec Messi, c'est que lui, c'est tout l'inverse. Il n'a jamais eu envie de venir au PSG. Il n'a jamais voulu quitter le Barça. Simplement, il y a eu des problèmes financiers qui ont fait que, mais il n'a jamais voulu venir. Donc, à partir du moment où tu te forces à recruter un joueur qui n'a pas envie de venir chez toi, ça, c'est obligatoire que ça finisse en cauchemar. En tout cas, il y a de très, très fortes chances. Donc, au final, c'était sûr. Et puis, comme l'a dit Tonton, il n'y avait aucune plus-value par rapport à l'équipe, puisque on avait le chantier des latéraux qu'on avait comblé, on avait des soucis encore qui nous restaient au milieu de terrain, et qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous chercher Messi. Donc au final, voilà, c'était sûr, c'était prévisible que ça allait être un flop. Et maintenant, ben voilà, il a gagné sa Coupe du Monde. Depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, il n'a rien fait. Alors, je vais dire, il marche sur le terrain. On va me dire, oui, mais Messi, il marche tout le temps sur le terrain, tu ne connais pas le football. Non, mais il y a un minimum. Il y a un minimum d'envie et de mouvement. Aujourd'hui, Messi, il est tête baissée sur le terrain, il est comme ça, et c'est que l'ombre de lui-même. Et tu le vois après le week-end avec l'Argentine, il cavale, il est content, il a le sourire. Quand il sort à l'entraînement avec l'Argentine, il a le sourire. Quand il sort au PSG, tête baissée, quand des loges, tête baissée. Et voilà, il n'a pas envie d'être là. Ça se voit, tu vois. Donc, respect à sa grande carrière. Mais c'était une très mauvaise idée d'aller le chercher. Et ça, pour défendre un peu Messi, ce n'était pas uniquement sa faute à lui, parce que le Qatar jamais doit aller chercher Messi.
Bah, que dire de plus? Ouais, enfin, si. Même un grand cynique positif comme les Bastos, qui disait non mais c'est nul de prendre Messi, etc. Deux jours avant a commencé à retourner sa veste Et on a tous retourné notre veste. Et bien sûr, on le savait avant, on le disait avant, on l'a dit après, mais sur le moment, il faut dire la vérité. Tout à coup, on s'est mis à avoir des étoiles dans les yeux, à être irrationnel. Et puis, en fait, c'est génial. Et puis, en fait, le problème est résolu. Puis, tu avais Messi qui passait, je ne sais plus, avenue Alma Marceau, je crois, ou je ne sais plus exactement. Où tout à coup, tu avais des mecs qui venaient de l'autre bout de la Terre, qui avaient pris un avion pour pouvoir faire le standing devant la nuit, devant l'hôtel, quoi, des trucs mais complètement surréalistes. Et oui, bah oui, maintenant, on est sur le constat du fait qu'on l'avait dit. Et cet irrationnel nous a mordé le cul. Tout a été dit, en fait. Oui, on a eu un Messi qui a été intéressant quand il s'agissait de préparer la Coupe du Monde. Grosso merdo, le PSG a été un camp d'entraînement. C'est génial. Voilà, on a été. Après, c'est une grande opération marketing. Mais c'est là où ça active un petit peu un regret. C'est quand tu te souviens de la déclaration de Nasser El Khelaifi qui disait nous, on ne veut pas Messi. On veut le prochain Messi. On veut trouver le nouveau Messi.
Il y a 10 ans, il disait ça.
Et le pire, c'est que d'une certaine manière, alors est-ce qu'Mbappé sera, etc. Enfin, on n'y est pas vraiment. Il faudrait 10 ans de carrière de plus pour pouvoir se faire un avis sur la question. Mais d'une certaine manière, quand tu fais venir Messi, c'est un aveu d'échec terrible par rapport au début du projet.
Moi, je lève les mains. Moi, j'étais pour l'arrivée de Messi. Je lève les mains. Les gars, attendez, les gars, vous allez quand même pas me dire que j'ai eu tort de me dire que l'un des plus grands joueurs de l'histoire, lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain, je ne suis pas content. Je vous rappelle que lorsque Messi arrive au Paris Saint-Germain, il est à 36 buts sur la saison et il est ballon d'or. Donc, il est performant encore. Maintenant, après coup, et même pas après coup, je pense que Tonton, tu t'en rappelles, je crois, les lives qu'on suivit, je crois que le deuxième mois, on avait très vite senti la douille arriver. On s'est très vite dit, Messi, c'est très bien de l'avoir dans ton club, mais il ne correspond pas à un besoin, il correspond à un caprice. Et à partir du moment où un joueur correspond à un caprice, c'est très mauvais signe. Daniel Vess, il correspondait à un besoin. Son niveau de jeu n'était plus en adéquation avec ce qu'il avait donné. Buffon, il correspondait à un besoin. Son niveau de jeu n'était plus en adéquation avec ce qu'il pouvait répondre. Messi, c'était complètement un caprice du Qatar. Messi, s'il est arrivé au Paris Saint-Germain, alors il est performant, oui, mais c'est surtout parce qu'il voulait faire la M&M, surtout parce que c'est Lionel Messi, c'est surtout parce qu'il ne correspondait pas à un besoin. Si tu n'avais pas besoin d'un numéro 10, tu en avais déjà un numéro 10. Alors il était souvent blessé, je suis d'accord avec vous. Quoique la saison où Lionel Messi arrive, bah, il a été blessé, je crois, contre Barcelone et après il est revenu contre le Bayern. Donc il était blessé, je crois, il avait été blessé un mois. Neymar, si j'ai pas de bêtises. Et t'avais déjà un numéro 10. Donc il n'est pas là pour le sportif. Tu vois. Il n'est pas là pour le sportif.
Mais même, pareil, j'ai même envie d'ajouter, en vrai de vrai. Tu recrutais Messi à ce moment-là et tu lui mettais son contrat de 2 ans. Ça te permettait d'avoir et Messi, et Neymar, et Mbappé dans ton équipe. Des mecs qui potentiellement pouvaient gagner la Coupe du Monde en étant des joueurs du PSG. Il est plus là, en fait, la finalité du bail, c'est de te dire, imagine Messi gagner la Coupe du Monde au Qatar en étant un joueur du PSG. Tu ne peux pas faire mieux en termes de soft power pour le Qatar.
Oui, bah oui. C'est quand même fou. T'as trois des plus grosses sélections du monde et de l'histoire, et tu as les trois numéros de ces sélections. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, on va revenir uniquement sur l'aspect du jeu, parce que moi, j'aime pas trop rentrer sur les autres aspects, etc. L'aspect du jeu. L'histoire de Messi ne court pas. Je ne peux pas lui en vouloir. Il a toujours fait ça. Ben, moi, ce que j'en veux, c'est comme je l'ai dit dans la phrase précédente, c'est d'être allé chercher tout simplement. C'est quand tu vas chercher Messi, tu sais qu'il ne court pas. Et tu sais déjà que Mbappé ne court pas. Tu sais déjà que Neymar fait les efforts, mais forcément, plus tu vas faire des sports, plus tu vas être carbo vite. Donc tu sais tout ça. Tu sais tout ça. Donc tu peux pas faire, on ne peut pas se permettre de faire les étonnés, de se dire, mais il ne court pas, il ne fait pas les efforts. Mais on le savait très bien. C'est pas sur ça qu'on lui en veut Messi. Moi, là où j'en veux à Messi, c'est son implication. Si je suis désolé, première saison. Il est absolument pas impliqué. Tous les buts qu'il met, c'est Mbappé qui lui donne. c'est factuel. Tu vois, le premier but qu'il met, c'est Mbappé qui lui donne. Il a mis 6 buts en Ligue 1, les gars. C'est Lionel Messi. Bref. Bref, il montre aucune implication. Il montre de l'implication avant la Coupe du Monde. Et encore avant la Coupe du Monde, 2 mois avant la Coupe du Monde, tu sens que ça commence à patauger. Fin de la Coupe du Monde, c'est fini. Le gars, il s'en fout de tout. Il tire la gueule. J'ai eu ma Coupe du Monde. Je suis le meilleur joueur de l'histoire, etc., etc., etc. Parlez pas avec moi. Moi, c'est comme ça que je le prends. Donc, il n'a rien à faire ici. Moi, je suis. Est-ce qu'il doit partir? Oui, il doit partir. Il a rien à... Déjà, de base, il n'avait rien à faire ici. Oui, on était content parce que c'était Messi. Oui, on était content parce que patati patata. Mais c'est bon. La supercherie a assez duré. C'est bon. Il correspond pas à un besoin. Il prend une place pour rien sur le terrain. Allez, salam. Tu vois, salam, salam, salam. Dans tous les cas, la M&M, elle doit être cassée. Neymar, tu auras du mal à le vendre. Il est pété malgré qu'il ait une valeur marchande. Je pense que lui, la saison prochaine, il sera là parce qu'il n'y a aucun club qui va se prendre le risque d'aller prendre un mec avec un aussi gros salaire, qui a 100% de ses droits d'image et avec une cheville qui commence à dire « Ouais, je sais pas trop si je suis là ou si je suis pas là. » Et Kylian Mbappé, bah, et apparemment, il est invendable. Donc c'est cuit. Donc si tu veux casser la M&M, le dernier, c'est le gars qui est libre. Salam. Allez, vas-y, va là-bas et puis vas-y, bref. Et puis même, les supporters n'ont déjà aucune attache avec lui. Donc moi je pense que Messi, faut qu'il retourne. Soit il retourne là où il est parti, soit il va à l'Inter Miami, t'as eu ta Coupe du Monde, félicitations, t'as eu la Copa aussi, félicitations. Maintenant, salam mon ami.
Très rapidement, c'était par rapport à ce que tu disais, on en parlait tout à l'heure d'El Shaddai, et je pense que c'est même beaucoup moins que 100 minutes. À vérifier à mi-touche, mais après ça t'a peut-être vérifié sur Transfermarkt, mais de mémoire c'est beaucoup moins que 100 minutes. Excuse-moi,
c'est les matchs en Coupe de France.
J'ai même pas le souvenir d'avoir vu faire un match complet.
Je crois qu'il a fait deux rentrées en fin de match.
Ouais. Il a été titularisé contre Monaco. Il a été nul, donc il a été sorti à la mi-temps. Par contre, quand c'est les Marquinhos et Ramos qui sont nuls tout un match, ils sont pas remis en question le match d'après.
C'est compliqué quand même de sortir un cadre à la mi-temps quand même. Bon bref, ça c'est
non, par contre, tu peux lui faire pas jouer le match d'après quand
il est nul. Et là, je te rejoins. À un moment, il y a des électrochocs qu'il avait donné. Mais sur le cas Messi, au bout d'un moment, moi je suis désolé. Moi, je me mets à la place des dirigeants. Tu payes pour un truc et c'est comme si tu payes pour un MacBook alors qu'en fait ton téléphone.
Non, on va pas pleurer pour les dirigeants, ils l'ont eu leur truc.
Pourquoi je te dis ça, Adrien, franchement,
ils ont eu le contrat en Asie, ils ont eu leur vente, ils ont eu leur.
Regarde ce que je vais te dire, pourquoi je te parle des dirigeants? Parce que l'info du jour, c'est que les dirigeants veulent casser la M&M et donc ils veulent faire partir. Mais c'est pour ça que je te parlais de ça, parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a posé la question. Bah, moi, je peux comprendre aussi que les dirigeants se disent, on n'a pas l'argent qu'on a dépensé, on ne l'a pas sur le terrain, donc il faut partir. Et puis les supporters, moi je suis désolé, il y en a qui nous reprochent le fait de siffler Messi. Déjà, c'est notre club, on fait ce qu'on veut. Voilà, si je vais insulter quelqu'un, je le fais. Si je vais siffler quelqu'un, je le fais. Si demain je vais siffler Mbappé, c'est moi. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, je fais ce que je veux. Alors peut-être que je me trompe, mais je fais ce que je veux encore. C'est mon club, donc personne ne va me donner des leçons sur comment je dois supporter mon club. Déjà, c'est la première des choses. Et puis, si les supporters en arrivent à siffler Lionel Messi, tout simplement parce que l'implication qu'ils montrent, elle n'est pas bonne. Les gars, moi je suis désolé, il y a quelqu'un de tout à l'heure, c'est Kevin Toto, je t'ai vu répondre à la personne. Elle nous dit, ouais, mais c'est un bouc émissaire. C'est pas un bouc émissaire. Je suis désolé. Messi, quand Messi arrive, c'est Messi. Donc forcément, les attentes sont beaucoup plus élevées qu'avec un Vitinha. Bah oui, frère, qu'est-ce que je vais aller siffler un Vitinha parce qu'il n'est pas bon? J'attends beaucoup moins de Vitinha que ce que j'attends de Messi, les gars. Et oui, et en plus de pas être bon, tu nous manques de respect. Frère, salam.
Non, mais Barry, tu comprends, c'est parce qu'on a osé critiquer Messi. C'est comme si on n'avait jamais critiqué Mbappé dans nos lives, comme si on n'avait jamais critiqué Neymar, comme si on n'avait jamais dit que Donnarumma n'est pas au niveau quand il n'est pas au niveau.
Ils sont trop marrants.
On parle du PSG, on parle pas de sa carrière. Sa carrière, à un moment, peut être un peu con.
Mais ils sont trop marrants. Neymar s'est déjà fait siffler au Camp Nou. CR7 s'est fait siffler un nombre incalculable de fois à Madrid, au Santiago Bernabéu. Je peux t'en citer énormément de grands joueurs qui sont fait siffler. Il n'y a que chez nous, quand on les siffle, on est des méchants. Mais vous êtes des fous, vous. On
fait Cavani ce qu'on veut, c'est notre club. Siffler. Ça n'a rien à voir, mais Cavani s'est fait siffler avant d'avoir un champ.
Ah.
Mais voilà, c'est ça, c'est qu'à un moment, tu peux être sifflé. Pareil, Rai a été sifflé. À un moment, tu peux être sifflé, et puis après, tu vas gagner ton champ. Quand est-ce que Messi, c'est pas... Oui, en effet, s'il n'était pas en adéquation avec les besoins de l'équipe, blablabla. Mais il y a un moment où, au niveau de l'attitude, il y a eu des choses à redire dans son implication. Et ce qui est un peu vexant, et ça, on peut le dire, il s'implique énormément avant la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, c'est pendant deux semaines, trois semaines, et après, c'est rideau. Comme le disait très bien Recoba, il ne fait plus d'efforts, il ne court plus, il ne regarde plus. Il a toujours marché sur le terrain. Mais avant, il marchait et faisait une tonne d'appels. Là, il marche et il ne fait pas d'appels. Alors après, tu peux l'expliquer par le réseau effectif, mais il y a un moment où on peut aussi critiquer Messi de par son implication. Et si des gens ne sont pas capables de l'entendre parce que Messi a raison, quoi qu'il fasse, quoi qu'il truc, bah, ils l'entendent.
C'est que ces gens-là ne supportent pas le PSG, je mets ma main à couper que ce ne sont pas des supporters du PSG.
Donc puis, mais oui, mais dans ce cas-là, il n'y a pas la peine d'en parler. Quoi.
Je vais même aller plus loin. Attention, je crois, parce que là, je sais qu'il y en a qui vont me reprocher le fait que je fasse le parallèle. Mais de base, lorsque Messi arrive,
la piste qui était ciblée, c'était Pogba. Alors attention, je ne parle pas des blessures, hein, les blessures, etc. Mais Pogba, mine de rien, qu'on le veuille ou non, qu'on aime le joueur, qu'on n'aime pas ou quoi que ce soit, qui derrière il s'est pété avec les blessures, etc., il correspondait à un besoin, qu'on le veuille ou non. Le profil de Pogba correspondait à un besoin que tu avais besoin au milieu de terrain. Donc il y avait, même si le gars se blesse au Paris Saint-Germain, lorsque tu recrutes Pogba, tu avais une sorte de cohérence. Mais si, il n'y a aucune cohérence. Lorsque Messi arrive, voilà, c'était soit Messi ou soit Pogba. Messi, c'est clairement un caprice. Messi, c'est clairement un caprice. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Si tu me dis que Messi est un projet sportif, lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain, je te dis, mais t'as pété les plombs. Et puis même à l'époque, même si on était content que Messi arrive, je vous invite à revoir les lives, tout le monde parlait de caprice. On savait que c'était un caprice de l'émir. Mais comme c'était Messi et qu'il avait fait une saison juste avant, je disais, bah, potentiellement, oui, il y avait de mayonnaise qui pouvait tourner. Mais non, en fait, au final, non, le caprice n'a pas été bon et ne correspondait pas à ce que tu avais besoin.
C'est surtout que si encore tu avais fait le projet autour de Messi, tu avais bâti une équipe autour de Messi pour qu'elle soit performante. Ça aurait pu marcher. Sauf que là, tu as promis la même chose à Messi, alors que tu as promis la même chose à Neymar il y a 5 ans et tu as promis la même chose à Mbappé quand il prolonge il y a maintenant 10 mois. Donc à un moment, tu fais comment pour construire une équipe et autour de Mbappé, et autour de Neymar, et autour de Messi? Ça n'existe pas. Donc à un moment, il faut que tu fasses des choix. Faut que tu fasses des choix. Est-ce que Messi, regarde, avec toute la légende qu'il est dans le foot et tout ce qu'il a apporté dans le foot, qui est-il au PSG? Pas dans le foot, pas au Barça, au PSG. Il est en fin de contrat, il a 36 ans, ça sert à rien. Tu vois, c'est... Pourquoi on forcerait à le garder pour qu'on continue à ce que ça se passe mal, parce que ça ne serait pas organisé autour de lui, ce serait encore un chantier, et après on continue encore à le critiquer, mais on n'aurait pas le droit de le faire parce que c'est Messi. Ça sert à rien.
Mais Fion, attends. Mais Fion, calme, il y a une différence là. C'est là tu mélanges tout, mon pote, parce que là, en fait, tu nous parles d'un joueur Osimhen qui n'est pas au PSG, donc s'il ne veut pas venir, c'est son problème. Mais Messi, il est au PSG, il est sous contrat au PSG, il est payé par le PSG pour jouer au PSG et pour être bon sur le terrain. Donc la comparaison avec Osimhen, elle n'est pas bonne. Bourbier ou pas Bourbier, aujourd'hui tu es joueur, tu dois jouer et tu dois donner ton maximum, c'est tout. Après, si ça se passe mal parce que c'est un Bourbier, parce que les joueurs autour sont pas bons, parce que le coach n'est pas bon, c'est un fait. Tu vois, Mbappé, il en prend un peu moins dans la gueule que Messi par exemple, parce qu'il est quand même plus investi sur le terrain, plus investi aussi en dehors des tribunes avec les ultras, etc., etc. Mais Messi, il n'en a rien à faire du club. Donc s'il se fait siffler, c'est mérité à un moment donné.
Et je vais réagir à ce que tu dis. C'est-à-dire que tu prends un Osimhen, il a quel âge? Il a 24, je crois.
Il est 25, peut-être.
Ouais, 24, entre 24 et 26. Le mec, il arrivera et il aura l'attitude qu'a eu Messi. Le Messi, en termes de course progressive, le Messi du PSG, tu compares avec le Messi à Barcelone. Quoique à Barcelone, les deux dernières saisons, c'était nettement moins en dessous. Mais tu compares avec le Messi il y a 4 ans, le nombre de courses, c'est le jour et la nuit, c'est même pas comparable. Un joueur qui est dans la fleur de l'âge, qui a tout à prouver, qui a déjà prouvé pas mal, mais qui a encore à prouver pour aller plus haut, la comparaison, elle a rien à voir.
Moi, c'est même pas les histoires de il court pas qui me dérange, ça je m'en fous, ça allait très bien.
C'est pas qu'il court, le nombre de courses progressives, c'est pas la même chose. La quantité d'appels, il a toujours marché.
Quand je te dis court, c'est par rapport aux gens qui lui reprochent de marcher, etc. Non, il a toujours fait. Mais moi, ce que je reproche, c'est qu'il apporte rien offensivement. Alors après, attention, sur les derniers matchs, on va pas non plus tirer la pierre. Je suis désolé, mais les bons ballons, les envoie Mbappé. Hein. Mbappé, s'il croque, c'est pas non plus la faute de Messi. Tu vois, si Mbappé croque devant le but face à Mandanda et encore une fois contre le match, c'est pas la faute de Messi. C'est Mbappé qui a un problème à la finition et c'est à lui de travailler sa finition. Et là, je vous rejoins. Mais par contre, Messi, je suis désolé, mais tu regardes ce qu'il fait. Avec l'Argentine, tu regardes ce qu'il fait au début de saison, tu regardes ce qu'il fait avec Barcelone et tu regardes ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, je suis désolé, c'est le jour et la nuit. Et encore, c'est même plus le jour et la nuit. C'est la journée de Paris et la nuit à Mars. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est des années-lumière. C'est n'importe quoi.
Et
je voulais juste faire un petit aparté sur un petit truc que j'ai entendu tout à l'heure, passer sur les réseaux par rapport sur RMC Sport. Alors je sais qu'il ne verra jamais cette vidéo, mais j'ai quand même envie de lui répondre parce que ça m'a fait tilquer. C'est Emmanuel Petit qui estime que quand tu t'appelles Lionel Messi, tous les autres autour de toi sont obligés de travailler pour toi, faire ton travail de l'ombre. Eh les gars, les 11 joueurs, les 10 joueurs sur le terrain autres que Lionel Messi ne sont pas des larbins sur un terrain. Alors je veux bien que des joueurs derrière, comme le faisait avec Zidane, Vieira et Makelele, c'était un rideau qui protégeait Zidane, qui récupérait les ballons lorsque Zidane perdait. Je veux bien que ça arrive. Maintenant, lorsque tu n'as pas ça, les joueurs ne sont pas tes larbins. Il faut aussi que tu fasses des efforts à des moments. Il faut arrêter ces histoires de « on doit travailler pour tel ou tel joueur ». C'est faux. À un moment, le joueur aussi doit travailler. Tu vois,
mais attends, avec Messi, il y a un problème. C'est que pour parce que c'est voilà, c'est les Léo sexuels. Messi, quand l'équipe gagne, c'est grâce à Messi. Mais quand l'équipe perd, c'est pas de la faute de Messi. Donc en fait, c'est tout bénef.
Je propose que je réponde à une question parce que pour passer ben Messi, ça fait 20 minutes qu'on en parle. C'est un joueur.
Et Messi n'est pas le seul.
Mais ce qui est dit, ce commentaire, à titre perso, plutôt. Si on doit mettre beaucoup d'argent, c'est Kane plutôt qu'Osimhen. Moi, ce serait plus Vlahovic. Vous êtes plus Vlahovic ou vous êtes plus Osimhen?
Bah justement, là, j'allais balancer la question sur le 9. tu m'as tué mon truc. Donc voilà.
Ah non, je t'ai lancé ton truc. Je te l'ai pas tué, je te l'ai lancé.
Ah, je rigole.
On s'en remet un peu sur Messi.
Non, mais de toute façon, on a fait le tour. De toute façon, il nous reste 6 minutes. Donc moi, je propose qu'on fasse un petit tour. De toute façon, on fera un truc sur le mercato à venir. Mais c'est vrai que comme on parlait beaucoup du neuf et d'Osimhen, je voulais savoir pour vous quel est le neuf que le Paris Saint-Germain devrait recruter. Bah, tu commences, Dreyas, vu que tu avais l'air de nous vanter de Vlahovic.
Ben, le truc, c'est qu'Osimhen, c'est plus un soliste. Alors, il est très bon de la tête. Moi, au début, je ne le pensais pas bon de la tête. Mais c'est plus un joueur qui est basé sur les courses plutôt que sur la position, même s'il sait un peu tout faire. Alors que Vlahovic, c'est vraiment l'attaquant de haut but. L'attaquant ancien qui est malgré tout technique, capable. Et du coup, moi, c'est Vlahovic qui me fait rêver parce que t'aurais, pour moi, c'est juste... Après, tout dépend. Hein. Si tu as pu Mbappé, je prends Osimhen tous les jours. Mais si on a Mbappé, Vlahovic, Mbappé, je pense que Mbappé en 9,5 autour de Vlahovic, c'est juste parfait en termes de combinaison. Vlahovic est vraiment capable de tenir les ballons haut. Mbappé est très capable de se projeter. Je pense que les deux marcheraient super bien ensemble. Après, si Mbappé part, je prends Osimhen tous les jours.
Dreyas. Ricoba, pardon.
Moi, pour moi, tu vois, par exemple, si on peut rajouter même Colomwani dans l'équation, pour moi, les deux mieux à prendre, les plus adaptés, je dirais, ce serait Vlahovic et Osimhen. Après, dans des registres différents, Osimhen, c'est un chien de la casse, il court partout, il t'attaque la surface, il pèse beaucoup et tout. Qu'un Vlahovic, il est meilleur en remise, je pense qu'il saurait mieux jouer. En termes de placement, je suis assez d'accord aussi. Et puis surtout en termes de prix, parce qu'on est obligé de regarder les finances. Et je pense qu'un Vlahovic, si jamais la Juve se qualifie en Coupe d'Europe, ça coûterait aux alentours, je pense, des 80-100 millions, alors qu'un Osimhen, ce serait 150. Et en plus, avec le président de Naples, qui est juste horrible en négociation, ce serait très compliqué. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que, ouais, pour faire rapide, je dirais Vlahovic.
Surtout si tu as pris Minja pour 53. Il te fera payer très, 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 très cher aussi maintenant, à ce moment.
Tonton.
Moi, j'avais fait un live le 30 août où j'avais dit qu'il fallait qu'on arrête de faire la manche et d'aller faire le mercato en Serie A avec ces clubs qui sont fauchés et qui, du coup, pensent que le PSG va résoudre leurs problèmes financiers en surpayant leurs joueurs. Donc, bon, si tu me poses les deux, je te dirais qu'ils ont des qualités différentes quand même, dans le sens où Vlahovic a notamment cette capacité à mettre des coups francs que n'a pas Osimhen. Par contre, Osimhen, il a cette capacité à faire le pressing et à aller essayer de couper les lignes de passe entre les gardiens et le défenseur que n'aura pas Vlahovic. Donc c'est ça le problème. C'est soit tu te dis tu cherches un attaquant plus complémentaire à Mbappé et du coup tu prends Vlahovic. Soit tu te dis tu cherches un attaquant plus complémentaire à l'équipe et là tu prends Osimhen. Et moi j'avais envie de tenter un truc, c'est le truc de dire est-ce que si tu as Osimhen, l'avantage c'est que tu peux avoir un ailier plus travailleur et comme ça c'est moins dérangeant si Mbappé taffe pas, alors que si tu as un Vlahovic, bah, t'es obligé d'avoir vraiment un super taffeur à droite.
On remercie Swapper. Swapper. Comme dit, un attaquant de la tête, c'est parce qu'il nous manque sérieusement jouer les comptes, c'est bien. Mais quand on est placé, le jeu aérien est un plus. Je suis d'accord avec toi, Swapper.
Merci encore. Mais pour le coup, que ce soit Osimhen ou Vlahovic, c'est des monstres de la tête. Hein.
Non, mais justement, c'est pour ça. J'ai plus essayé d'évoquer leurs différences que leurs points communs.
Mais t'as eu raison, il t'a dit des choses qui étaient vachement bien. Et, En substance, Vlahovic serait plus compatible, mais Osimhen est plus utile dans le premier pressing et tout simplement couper les premiers angles de passe, ce que Vlahovic ne fait pas forcément. Et tu as la problématique, si tu associes Vlahovic avec Mbappé, d'en avoir deux qui ne le font pas, tu reproduis une problématique. Par contre, au niveau de la complémentarité, au niveau de l'utilisation avec ballon, les deux marcheraient bien ensemble. Mais si on t'écoute et qu'on déroule le fil de ce que tu es, tu es en train de dire, bon, bah, Mbappé part et puis tu as Osimhen qui arrive et puis on n'en parle plus.
Non, pas forcément, c'est dans
le sens.
Non, du tout, mais c'est dans le sens où, pour te dire, tu vois, si tu prends Osimhen et que tu as un ailier qui est taffeur, le fait que Mbappé ne taffe pas, ça ne se verra même pas.
Alors j'entends, si mais le problème,
tu seras obligé d'avoir un ailier droit ou un numéro 10 qui va être un super taffeur.
Mais l'immense problématique, c'est que si tu prends Osimhen et Mbappé, ils ont des circuits de course qui sont quasi les mêmes.
Oui. Alors, oui.
Osimhen, un peu plus côté droit, mais pas tant que ça.
T'as pas que des avantages, bien sûr.
Voilà. Et c'est le gros problème avec Osimhen Mbappé, à mes yeux. Hein. Bon, même si, effectivement, il est sublime, ce joueur.
Du coup, moi, je vais répondre en vite fait. Vlahovic, j'ai déjà fait une vidéo avec Tonton du Sud, donc je pense que vous savez ce que j'en pense. Voilà, pour moi, il est plus Mbappé compatible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques mois, je t'aurais dit que je voulais Vlahovic. Maintenant, il y a une chose qu'on ne dit pas sur Vlahovic, c'est que sa saison, elle n'est pas au niveau de celle de l'année dernière. Elle n'est pas au niveau de ce qu'il a fait à la Fiorentina aussi. Vlahovic, cette saison, je le trouve beaucoup moins. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix, vu que je pense que Neymar ne partira pas. Donc, ça sera forcément Neymar. Et puis, dans tous les cas, tu n'es pas obligé forcément de jouer qu'un 10. Mais bon, ça c'est un autre débat.
Bernardo Silva aussi.
Ouais, Bernardo Silva
aussi. Carrément. C'est la réponse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et puis, on va jusqu'à Z comme ça.
Voilà. Vlahovic a été pas mal blessé cette saison. Et puis, c'est vrai qu'il ne réalise pas une saison aussi bonne que les précédentes saisons. Osimhen. Le passé. Oui,
mais parle du contexte aussi.
Toi, t'aimes trop me couper la parole, c'est un truc de ouf.
Parle du contexte.
En plus, il y a une personne qui parle dans les commentaires qui me dit que c'est par rapport à sa pubalgie. Et sur le Osimhen, moi, c'est son passif. Son passif aussi, il a un passif de blessure. Parce que là, c'est la première saison où il enchaîne les matchs. Alors, il y a eu sa blessure au pif, là, où il a dû se faire... il s'est fracturé le nez. Mais c'est vrai qu'il a aussi un passif de blessure musculaire. Et maintenant, sur la compatibilité, oui, je suis d'accord avec Tonton. Je trouve que Osimhen, il sera plus équipe compatible. Et c'est vrai que dans cette équipe, tu manques de dépassement de fonction. Et la deuxième chose, c'est comme l'a dit Ricoba, c'est un harceleur. Dans ses appels et puis même dans la surface de réparation, il est exceptionnel. Le Osimhen, il a une qualité de frappe exceptionnelle. Mais si tu regardes bien, ce que Osimhen fait dans la surface de réparation, Vlahovic le fait aussi. Vlahovic est un peu moins travailleur en termes d'abattage défensif, de dépassement de fonction. Par contre, là où Vlahovic est exceptionnel, c'est que son placement tactique est toujours excellent. C'est un point de fixation à la Giroud, en fait, tout simplement. Et en plus, comme le disait Dria juste à l'heure, techniquement, c'est pas le meilleur, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Voilà. Il est parti. Ok. Et donc, du coup, ouais, moi, je le trouve très intéressant. Maintenant, si on doit choisir entre les deux, franchement, j'étais plus Vlahovic au milieu de saison. Là, c'est vrai que je suis un peu plus Osimhen, je l'avoue. Je l'avoue que je suis un peu plus Osimhen, mais si Vlahovic vient, je suis très content. Le dernier pour moi, c'est Colomani. Et pour moi, Colomani, c'est très différent des trois autres. Colomani, il est très Mbappé compatible, mais Colomani, c'est un joueur qui dézone pas mal. Et donc, c'est vrai que dans une équipe où tout le monde dézone, je pense qu'avoir encore un autre joueur qui dézone, bah, comme je le dis souvent, si tout le monde dézone, bah, au final, tu n'as plus qu'une structure d'équipe. Et je pense que c'est un peu moins cohérent. Maintenant, Colomani, il s'axe plutôt côté droit. Donc, c'est vrai que il correspond aussi à un besoin que tu as. Mais je ne pense pas que c'est la priorité à l'heure actuelle.
Un Colomani pourrait très bien aller sur le côté droit, par exemple, parce qu'effectivement,
ouais, il beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il puisse vraiment jouer ailier, en fait, Colo.
Ah, il joue en équipe de France, il joue ailier et il est bon. Ouais, hein, même en équipe de France, il est dans la Coupe du Monde.
Moi, j'estime qu'il est neuf, mais c'est vrai qu'il dézone pas mal côté droit. Il peut se permettre de faire, il peut même pas forcément côté droit, il dézone. Mais tout le monde prend, quoi. Je suis pas... Et donc, il dézone pas mal au...
C'est des problèmes de batterie, je pense.
Ouais, il dézone pas mal aussi au milieu de terrain ou autre. C'est vrai que Colomani dézone pas mal et je trouve que quand même dans une équipe où tout le monde dézone, je pense pas que ce soit le meilleur abattage. Maintenant, ça reste un bon joueur. Hein. Il réalise une très bonne saison.
Depuis tout à l'heure de Kane.
Kane, je t'aurais dit que c'est intéressant. Mais maintenant, Kane, je le vois mal venir à Paris. C'est pour ça que j'en parle même pas.
Qu'est-ce qu'il donnera en dehors de l'Angleterre?
Qu'est-ce qu'il donnera en dehors de l'Angleterre? C'est vrai qu'il s'est fait les croisés, donc on n'a pas encore vu les contre-cours parce qu'il était relativement jeune. Là, il commence à avoir de l'âge, donc là, on va commencer réellement à voir où en est son genou. Et puis même, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est son abattage en termes de jeu, dans le jeu. Mais c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, est-ce que tu as besoin encore d'un faux numéro 9? Pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'au Paris Saint-Germain, il te faut quelqu'un qui se fixe devant, tu vois, qui va faire des fois des faux appels, qui va des fois mettre des buts, qui va faire des appels aussi pour marquer, etc., etc., etc. Je sais pas si tu as remarqué, Dreya, je pense que tu es d'accord avec moi, mais c'est vrai que des ballons qui arrivent de la défense ou du milieu de terrain, des jeux longs pour aller toucher les attaquants, on en a beaucoup moins parce que tu n'as pas de numéro 9. Tu vois,
oui, mais Kylian Mbappé est bien musclé. Mais après tu as Kylian Mbappé qui fait des appels, mais c'est très difficile de faire une transversale sur un mec qui fait une appel. Tu as besoin d'un point de fixation devant et Mbappé en est incapable et l'étiquette aussi. Donc.
Et voilà. Et puis surtout, Mbappé, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que Mbappé, bah, maintenant, je suis désolé, mais les joueurs, les ailiers rapides comme ça, il n'y a qu'une seule solution pour les éliminer. Tu mets un joueur au marquage qui est un défenseur et après tu mets un deuxième joueur qui va couper la ligne de passe entre le joueur ou autre et un troisième joueur qui va couper qui va essayer de couper les lignes de course du joueur. Et donc ça fait que tu fais une prise à 2-3 sur Kylian Mbappé, tu as réussi à l'isoler du jeu. Tu vois, et donc après tu n'as plus personne qui peut prendre la profondeur. Et donc avec un numéro 9 qui peut se fixer dans les défenses, bah déjà le défenseur qui sera en marquage de Kylian Mbappé, bah, il aura beaucoup plus de mal à marquer Kylian Mbappé.
Bien sûr, on est convaincu. Puis après, au-delà de ça, il y a toute la problématique d'occupation des ailes. Combien de fois on se retrouve avec les latéraux qui sont en train de monter, ils tentent un centre, mais il n'y a jamais personne pour les reprendre. Il y a effectivement le fait de pouvoir avoir un point de fixation qui va complètement libérer Mbappé et lui permettre de se relancer de plus loin. Et l'occupation des ailes qui est absolument nulle. Mais si tu veux, c'est pour ça après. Mais bon, là, on va peut-être. Ça fait une heure 36 qu'on est en live. On va peut-être lâcher maintenant un peu. Non, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je pense qu'on va se lâcher. Mais de toute façon, il y a d'autres lives qui vont venir là cette semaine. On vous a
concocté clairement.
Une semaine de live. Donc il y aura d'autres lives. Je crois qu'il y en a un demain et jeudi.
En ce moment, on est plus passionnant que les matchs du PSG à suivre. Je dis rien. Hein.
Je suis complètement d'accord avec toi, je te jure, mais tu sais que je l'ai dit sur les réseaux, je le dis même encore ici. Franchement, je t'ai à deux doigts de les boycotter. S'il n'y avait pas Paris Central, j'aurais boycotté. Hein, clairement.
Ouais, c'est pathétique.
Bref. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter s'il vous plaît. Racontez-moi ce que vous avez mangé à midi. Si vous êtes d'accord avec nous sur les sujets. Hein. Moi, j'aime bien avoir vos avis. J'aime bien pouvoir vous répondre, que ce soit sur Messi, que ce soit sur Ekitike, patati patata. Racontez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc, likez la vidéo. Commentez, abonnez-vous, activez la cloche, surtout pour cette semaine. Vous allez avoir une semaine de live exceptionnelle. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, ici c'est Paris.
Ciao tout le monde.